Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Et revivez les moments marquants de la semaine écoulée, semaine qui s'étire du vendredi 6 mars au jeudi 12 avec Mathieu Noël et autour duquel on retrouve sa grande complice Eva Rock, nos journalistes compétiteurs, hein, car l'équipe est sauvage, c'est aussi une compétition, et nos invités d'honneur. Ils étaient avec nous cette semaine, la chanteuse et actrice Chaïm, l'auteur, compositeur, interprète Kali, les comédiens Nicolas Duvauchel et Bertrand Huskla, et on ouvre les festivités avec MC Solar. Il est venu nous voir vendredi dernier à l'occasion de la diffusion du spectacle des Enfoirés sur TF1, le soir même. Alors vous ne pouvez plus voir le replay, mais vous pouvez toujours acheter le CD et DVD du spectacle pour soutenir les Restos du Cœur.
Et aujourd'hui, ce n'est pas une émission qui s'ouvre, c'est pour moi en tout cas une faille spatio-temporelle. Une faille spatio-temporelle qui me ramène 20 ans en arrière, dans la fosse d'une salle de concert où j'attends depuis des heures déjà l'arrivée de mon idole, celui dont j'ai tous les albums et que je vénère comme un demi-dieu.
Joe Dassin.
Non Eva, pas vraiment. La scène se passe dans mon pays natal, la deuxième patrie du rap après les États-Unis. La Suisse. Je ne porte alors pas encore les jeans slim de tous les bobos parisiens, mais un baggy du meilleur goût duquel dépasse allègrement mon caleçon. Dans quelques secondes, MC Solar va enflammer la scène de l'Arena de Genève, où au moment où sur Bouge de là, il va arracher son t-shirt, je vais défaillir, oubliant l'espace d'un instant mon hétérosexualité. 20 ans après, la star et le fan sont réunis, mesdames et messieurs, Claude MC Solar. Bonjour Claude.
Bonjour.
Vous avez vraiment déchiré votre t-shirt.
Oui, bah je m'en souviens très très bien.
C'est vrai ?
Vous vous souvenez de ça ou pas ? Vous avez fait tellement de concerts.
Oui, mais je m'en souviens, oui.
C'est vrai ?
J'avais des abdos.
Ah, et moi aussi, c'était notre point commun à l'époque, le seul. Alors, merci d'être avec nous cet après-midi pour la bonne cause. La diffusion ce soir sur TF1 du spectacle annuel des Enfoirés, enregistré au mois de janvier à l'Accor Hôtel Arena de Paris, puisqu'on n'est plus,
plus
Bercy. Le thème, c'est justement Paris. Le spectacle s'intitule Le Paris avec un S des Enfoirés. Vous êtes un fidèle de la quasi-première heure. Vous, MC Solar, j'ai regardé les statistiques. Vous étiez là en 1997 pour la première fois.
C'est vrai que je suis un ancien. Hein.
Vous êtes.
Ça fait 20 fois, je crois, on a compté. Je crois que c'est votre 20e participation aux Enfoirés.
C'est la 20e participation, toujours le même truc. C'est l'esprit de Coluche, quoi. C'est quelque chose qui est obligatoire. On est obligé de le faire parce que on reçoit des choses, donc il faut les redonner. Mon boomerang s'appelle Revient, disait un groupe belge.
Un CD ou un DVD acheté égale 17 repas offerts. C'est important de rappeler le chiffre parce qu'il y a ce show incroyable. Il ne faut jamais oublier ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire à quoi ça sert. Quoi.
Oui, on a toujours ça, on a toujours en tête quoi, que ce sont à chaque fois 17 repas quand un DVD est vendu. Et c'est pour ça qu'on le fait, quoi. On l'a toujours en conscience. Évidemment, on s'amuse, évidemment, le programme,
vous avez l'air de
le
bien
programme
vous amuser.
Va être extraordinaire. Derrière, on est un peu comme en colonie de vacances, mais il y a quelque chose qui nous meut. Ce sont ces repas et ces gens.
Si je ne m'abuse, c'est 6-7 heures sur scène le dimanche. Il y a eu un dimanche où il y a eu
deux représentations.
Ouais. C'est quand même un marathon aussi, les enfants, pour les artistes.
Oui, c'est un marathon, c'est beaucoup de travail, c'est pour la qualité aussi du spectacle. Hein. Ça nous fait des répétitions, on en refait. Et puis, tu as dit 8 heures, mais c'est...
plus que ça, en fait.
Ouais. C'était plus que ça, ce dimanche. Hein. J'ai vu les gens le soir.
Ils étaient dans un sale état.
Nous étions tous fatigués.
Claude MC Solar passe l'après-midi sur Europe.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Depuis 2001, MC Solar, vous êtes de tous les concerts des Enfoirés. C'est qui votre meilleur pote dans la...
Le meilleur,
ouais. Celui avec qui vous allez boire des coups après.
Ça peut être Thomas Dutronc, Marc Lavoine... Et puis le lendemain, quelqu'un d'autre.
Les nuits sont longues après un concert des Enfoirés.
Est-ce que vous buvez beaucoup sur la tournée des Enfoirés?
On se réhydrate.
Voilà, c'est très important, l'hydratation. On le rappelle à nos auditeurs, l'hydratation, c'est important. Pour moi, je crois qu'on a à peu près compris ce que représentait MC Solar, c'est-à-dire toute ma jeunesse, cette époque bénie où j'avais des abdos. Mais vous, qui est pour vous MC Solar? On est allé vous poser la question. Voici non pas un micro-trottoir, toujours falsifié pour flatter l'ego de l'invité. Voici notre micro-trop-trash. C'est la même chose, la censure en moins.
MC Solar, je le trouve romantique. Il me rappelle mon adolescence.
C'est un rappeur. Rap conscient. Et là, je passe en direct, là.
Peut-être que ma mère connaît, mais c'est pas sûr.
Solar, soleil, MC, c'est quoi? Comme M6?
Et voilà, il a plutôt, je trouve, une belle aura, voilà, une belle énergie, en tout cas. Bah, il est sincère, il a des rimes riches.
Dirais soprano.
Solar pleure, j'adore. Vous connaissez pas Solar pleure? C'est un de ses morceaux. Je vous invite à l'écouter.
C'est sympa parce que c'était du rap soft.
C'est quelqu'un qui est toujours présent. C'est un patron.
Ouais, il est vachement bien, MC Solar, j'adore.
Quelqu'un parle de rap soft. Je suis pas sûr que ça vous plaise, cette terminologie.
Je peux dire que ça me plaît, je peux dire que ça me plaît pas. c'est toujours par rapport... par rapport à la personne qui écoute. Hein, ce qui est soft pour quelqu'un peut être dur pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je relativise.
Non, c'est oui, dans les paroles. Vous êtes un poète.
Mais oui,
les gens vous voient plus comme un poète que comme un rappeur.
Je voulais toujours avoir ce petit côté poétique. Mais c'est surtout pour me différencier. Sinon, on serait tous pareils. Et comme ça, ça laisse plus de place aux autres. Parce que je suis un peu ailleurs. C'était théorisé. Hein, donc,
Mais attendez, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que, est-ce que dès le début, vous avez creusé ce sillon? Vous avez senti que ça marchait, ce sillon poétique, un peu du rap classe? Vous l'avez creusé ou vous auriez pu faire du rap bourrin pour percer? Ou ça vous ressemble tellement pas que vous l'auriez pas fait, tout simplement?
Non, mais comme on était plusieurs, moi, je voulais pas ressembler à mes autres copains. Comme ça, chacun a sa place et tout ça. Et puis en même temps, ça m'a permis de faire un peu de poésie.
Et puis ça vous a plutôt réussi aussi, en nombre de ventes d'albums, etc.
Les chansons étaient belles quand même.
Mais oui, bien sûr.
Et là, il n'y a que le fric qui l'intéresse, hein. C'est le nombre d'albums. Et voilà. Quand vous êtes revenu avec cet album dont on parlait tout à l'heure très bon en 2017, vous avez déclaré « 10 ans, c'est un record, je ne savais pas si ça allait matcher avec les gens, peut-être que j'étais resté figé dans une époque ». Vous avez vraiment douté au moment de la sortie de cet album ?
Oui, c'est vrai que c'était un peu long, hein, 10 ans. Normalement, je le dis déjà hein, que j'avais envie de faire une éclipse, et là, bien avant. Hein. C'est écrit,
bien avant, bien sûr.
Année sabbatique, ça veut dire que ça faisait très longtemps que ça me trottait, puisque grâce à toi, j'arrive à le voir. Mais c'est vrai que quand on s'en va longtemps...
On ne sait plus trop si on va être en phase.
Oui, on ne sait même pas si... je ne sais pas si on existe ou si on a toujours le bon truc. Donc je dirais à toute personne qui veut faire 10 ans sabbatique, ne les faites pas.
Il y a toujours un risque.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Avec Mathieu Noël, Eva Rock, qui est à présent l'un de nos chroniqueurs en compétition et en présence de l'acteur Nicolas Duvauchel, qui incarne un crooner amoureux d'une sirène dans le nouveau film de Mathias Malzieu, sorti en salle cette semaine et qui a pour titre « Une sirène à Paris ».
L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 continue. 2 heures de bonne humeur ponctuées de découvertes, de moments de rire et hélas parfois de promesses de moments de rire qui n'adviennent jamais. Nicolas Duvauchel, notre invité, va à présent découvrir Axel de Tarlé, alias Beedman. Beedman, c'est Superman à l'envers, c'est-à-dire un super journaliste avec des super pouvoirs économiques qui de temps en temps décide de se jeter dans le vide de l'humour. Le pire, c'est qu'à chaque fois, il y croit.
J'ai déjà une petite blague, là, je me réjouis de la dire, elle me fait rigoler d'avance.
Axel de Tarlé, pourquoi Aurélie Valogne devrait-elle voter pour vous ?
Bien, ma chère Aurélie, je compte sur ce qu'on appelle la solidarité entre auteurs, car votre serviteur est l'auteur de l'excellent La crise est finie, au Cherche Midi, 14,90€ dans toutes les bonnes librairies. Voilà, c'était drôle, hein ?
Aujourd'hui, la première bonne nouvelle, c'est que vous nous avez pas dit tenir une bonne blague avant l'émission, donc ça c'est bien. Et la deuxième, c'est que tous les candidats aux municipales, quelle que soit leur appartenance politique, sont tous d'accord sur un point.
Exactement, nous sommes à une semaine du premier tour des municipales. À Paris, par exemple, Anne Hidalgo veut chasser les voitures du centre-ville. Mais il n'y a pas que les grandes villes, c'est ça qui est intéressant maintenant. Toutes les petites villes, vous savez, il y a cette action, la cœur de ville, qui veut faire renaître les centres-villes des villes moyennes qui a souvent été essoré à cause des zones commerciales qu'il y a en périphérie. Et donc là, la grande mode, c'est de vouloir rendre piétons les centres-villes. Je dis c'est une mode parce qu'en 2014, c'était le contraire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, les maires disaient « Oui, il faut remettre des parkings gratuits en centre-ville gens puissent... » Et donc, on voyait des maires qui disaient « Moi, j'ai mis le parking gratuit. » Comme ça, les gens peuvent venir dans les commerces. Et alors, en fait, là, il y a un tournant à 180 degrés. Tout le monde veut piétoniser ces cœurs de ville. Alors, pour trois raisons. La première, c'est évidemment la qualité de l'air. Deuxième, c'est la qualité de vie. C'est vrai que ce n'est pas agréable de se promener en centre-ville quand vous avez des voitures qui vous klaxonnent en disant « Haute-toi de là que je m'y mette ».
Et souvent, ils ne disent pas ça. Parce que c'est le bar qui est arrivé dans sa calèche.
«
Son valet, haute-toi de là !» Il vit dans un autre nom. Mais... Ouais, Axel.
Tu vois que je suis fort en blague.
Dans l'humour involontaire, vous n'avez pas pareil. Oui.
Et la troisième raison, et ça qui est plus inattendu, c'est que c'est bon pour les commerces. En fait, les commerçants disent, si vous rendez le centre-ville accessible, ah oui, il y a des voitures, elles passent, mais elles ne s'arrêtent pas. Alors qu'un piéton, il flâne et il s'arrête et il rentre dans la boutique et il finit par acheter. Alors, le secret pour piétoniser le centre-ville, vous pouvez m'écouter, tous les maires de France, c'est d'avoir de petits centres-villes. La grande erreur, c'est d'avoir... on veut faire de grands centres-villes.
Mais on ne choisit pas un centre-ville historique.
Mais non, justement, on le rétrécit. On le ramasse, on le circonscrit à quelques rues. Et au bord de ce centre-ville, on met des parkings pour que le centre-ville soit directement accessible et qu'ensuite on puisse être à pied. Et certaines villes l'ont particulièrement réussi. Je pense à Arras, à Rodez, à Sarreguemines. Donc vous avez le retour des habitants dans les rues du centre-ville qui achètent, qui refont des achats. Et vous avez fait supplémentaire le retour des touristes. Eh bien oui, Arras, du coup, il y a des touristes qui se mettent à venir. On va, tiens, et si on allait passer un week-end à Arras? Et du coup, les habitants redeviennent fiers de leur ville. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant pour le commerce et même pour la fierté qu'on a d'habiter dans ces villes qui étaient souvent perçues comme des villes moyennes en déshérence.
Je crois qu'Eva a très envie de partir à Arras avec vous, Nicolas Dubochet.
C'est beau, c'est très beau.
En week-end à Arras, c'est vrai, vous connaissez.
C'est très beau, oui, oui, la grande place carrée, là, c'est très beau. Ouais, ouais. Voilà. Et Amiens aussi, ils ont fait un centre-ville comme ça, mais depuis ramassé. Très longtemps. Ouais. Mmh. Très piéton, voilà, c'était la nouvelle du jour.
Vous êtes d'où, vous, Nicolas?
De Paris, mais j'ai vécu à Amiens, ouais. J'ai vécu à Amiens 6 ans, ouais. Ouais,
toute une petite tendresse pour cette vie.
Je peux juste vous dire un truc, Mathieu, parce que vraiment, ouais. Je suis perturbée, je ne peux pas vous regarder. Vous avez encore des paillettes.
Il va falloir résoudre ce mystère des paillettes. Et puis, c'est très bien pour nos auditeurs qui ne savent pas de quoi vous parlez, finalement.
Bah, si, je dis que vous avez des paillettes sur votre visage.
Eva, je vois que mon sujet t'a passionné. Tu n'as regardé que les paillettes du front de Mathieu.
C'est un bon baromètre pour voir la qualité d'un sujet. Ouais. C'est quand on part dans un délire comme ça sur les paillettes de l'animateur, c'est de dire.
Mon sujet piéton. Vous savez pourquoi ça m'a intéressé, Axel? Ça m'a intéressé parce que ça ramène quand même au personnage que joue Nicolas Dubochet qui fait du roller tout le temps. Et si vous avez un centre-ville piéton, c'est quand même vachement plus agréable.
C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette chronique. Bien sûr, tout est pensé chez moi.
Bien sûr, rien n'est pensé du tout. Et vous faites du roller dans la vie, Nicolas Dubochet, ou c'est vraiment un rôle de composition, ça, pour vous, dans ce film?
Non, c'était la Non, j'en fais pas. Je sais en faire, mais j'en fais pas.
Vous êtes doublé alors à un moment, parce qu'il y a
Oui.
Mais il y a une scène où c'est vraiment vous qui en faites, je pense.
Exactement.
Et ça se voit que vous ne maîtrisez pas trop.
Oh là 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 là. Ah oui, c'est sur les pavés, là. Oui, c'est sur les.
Attends,
il y a des pavés, c'est compliqué. Hein. Je ne regarderai plus, moi.
Et je disais au début de cette séquence qu'on était bien accueillis. Nicolas Dubochet a le cœur brisé dans le nouveau film de Mathias Malzieu. Je suis sûr que vous serez nombreux et nombreux à vouloir le réparer. Incorrigible coquinou.
16h-18h sur Europe 1. L'équipé sauvage.
Même le week-end, il vous accompagne, Mathieu Noël, grâce à notre compilation de la semaine passée. À ses côtés, eh bien, on retrouve Eva Rock, l'invité d'honneur. Mardi, c'était Kali, le chanteur, qui était venu nous parler de son nouvel album Cavale. Et il a pu découvrir le sujet de Fred Goati.
Vous écoutez l'équipé sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 qui chaque après-midi se surpassent au service de votre culture G. Ils défilent au micro, vous les notez, sachant que la voix de notre invité d'honneur aujourd'hui, le formidable Kali, comptera triple en fin d'émission. Or, pour savoir si une chronique marche ou pas, en temps réel, il y a un baromètre. Le baromètre rock. Si la chronique est passionnante, Eva ne décroche pas un mot. Si en revanche, elle s'ennuie, elle décroche. Et dans ce cas, c'est assez visible, comme l'a constaté hier à ses dépens le malheureux Axel de Tarlet.
Pour le commerce et même pour la fierté qu'on a d'habiter dans ces villes qui étaient souvent perçues comme des villes moyennes en déshérence.
Je peux juste vous dire un truc, Mathieu, parce que vraiment je suis perturbée, je ne peux pas vous regarder. Vous avez des paillettes sur le visage.
Eva, je vois que mon sujet t'a passionné. Hein.
Fred Goati, je vous vois vous avancer fébrile vers le micro, c'est pas compliqué. Si à un moment Eva vous interrompt pour parler des paillettes sur ma gueule, c'est que vous avez probablement perdu.
Non, parce que vous n'en avez pas aujourd'hui.
Mais oui, parce que j'ai découvert que c'était un pchit magique de ma copine que je mettais en fait.
Ah, ça y est, vous avez trouvé.
Et dedans, il y avait des petites paillettes. Il y avait écrit que c'était un désincrustant facial, je sais pas quoi là. Et en fait, c'est un truc gommant, tu vois.
Oui.
Et sauf que c'était gommant, mais en plus, il y avait des petites paillettes dedans.
Voilà, donc j'étais pas folle.
Et donc, j'ai compris dans la douche ce qui s'était passé, en fait. Voilà, une phrase que je pourrais détourner.
Pas besoin de détourner,
elle est ridicule en soi, c'est vrai. Fred Goati, vous nous parlez d'un livre qui a marqué notre adolescence à l'occasion du centenaire d'un génie, Boris Vian.
Chronique sans paillettes. Je me tourne vers notre invité, cher Kali, je vous présente Chloé. Alors Chloé, c'est le prénom de l'héroïne de L'écume des jours de Boris Vian, mais c'est aussi le titre du morceau de Duke Ellington que nous sommes en train d'écouter. Alors vous avez remarqué au début, le tromboniste joue avec une sourdine, et on dirait du coup que son instrument chante, on dirait que son instrument est quasiment vivant. Exactement comme dans l'écume des jours, où tout est vivant, tout a une âme, les humains comme les machines, les animaux comme les instruments. Et la puissance, moi je trouve que la puissance évocatrice du roman de Vian est si forte que quand il écrit par exemple que les coins d'une chambre s'arrondissent sous l'effet de la musique, bah la musique elle surgit des pages. Et comme beaucoup, comme vous sans doute, j'ai lu L'écume des jours quand j'étais adolescent. Et grâce à Boris Vian, bah j'ai entendu à tous les sens du terme la musique de Duke Ellington avant même de la connaître.
Thank you.
personnage, si on peut dire, de L'écume des jours de Boris Vian, c'est évidemment le fameux Pianoctel. Ah,
le Pianoctel.
On en rêve tous. Hein.
Quelle belle invention. Mmh. Hein. Tout en érable mouché. Vous vous souvenez? L'érable mouché.
Ça veut oublier que c'est en érable mouché.
Alors, il faut le rappeler quand même, à chaque note correspond un alcool, une liqueur ou un aromate. Alors peut-être que le Pianoctel, bah, ça sonnait comme ça. Un bruit de contrebasse, peut-être.
Oh. Ah ça. Ah ça, je connais, Fred.
Non, vous connaissez.
Ah ça, c'est African Flowers, Duke Ellington.
Avec Charles Mingus à la contrebasse et Max Roche.
Ça, c'est magnifique.
À la batterie. Eh oui. Comme vous, Mathieu, Boris Vian était un ardent défenseur du jazz. Et comme vous,
j'aime
je crois...
beaucoup cette phrase. Comme vous, Boris Vian était un ardent défenseur du jazz. Je crois que le pont temporel entre Mathieu Noël et Boris Vian, c'est vraiment bien, bien trouvé. Ça.
Et j'ai fait des recherches. Comme vous, il jouait de la trompette la nuit dans les caves de
Saint-Germain-des-Prés.
Du saxophone. Ah, je me suis trompé. Bah, excusez-moi. Bon, bah alors, permettez-moi de refermer un instant notre livre du jour pour retourner une nuit de décembre 1957 au poste parisien sur les Champs-Élysées. Boris Vian est là, parmi les rares invités conviés à assister à l'enregistrement de la musique du premier long-métrage de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud. Chut ! Miles Davis joue en direct devant l'écran où défilent les images. Et comme le nuage qui parle et qui sent le sucre à la cannelle de l'écume des jours, la trompette de Miles était vivante aussi. Et Boris Vian le savait bien. Parce que quand on lui demanda de rédiger un petit texte pour la pochette du disque d'Ascenseur pour l'échafaud, il précisa qu'un fragment de peau s'était détaché de la lèvre de Miles Davis pour se coincer dans l'embouchure et que l'on pouvait ainsi remarquer la sonorité étrange de la trompette. Pure invention poétique, mais bien sûr, faisant de la trompette de Miles un animal mi-chair, mi-métal, digne d'un personnage de l'écume des jours. Bref, il faut lire ou relire encore et encore ce merveilleux roman, cette bouleversante histoire d'amour gâchée par une saleté de nénuphar, tout en écoutant du jazz, sur un Pianoctel, bien sûr.
Oh, le Pianoctel, ouais, moi j'aimerais trop, mais c'est bizarre que personne n'ait pensé à le construire.
Si, si, il existe. Comment il y a des gens qui l'ont construit, bien sûr.
C'est vrai ?
Oui, oui, oui. Ouais, non, mais vraiment.
Et
mais
combien après, ça coûte ?
Ah bah, je ne sais pas, mais après, je ne sais pas si ça marche aussi, est-ce que ça fait des bons cocktails ou pas.
Ah oui, ça peut faire des trucs dégueulasses.
De doublezon, qui était la monnaie dans l'écume des jours.
Ouais. Bravo, ouais, ouais. Fred Goetti. Jean-Philippe Ballas, vous pensez que cette chronique peut vous battre ? Une certaine conception du fair play.
Europe 1. 16h-18h, l'équipée sauvage.
Avec bien sûr Mathieu Noël entouré d'Eva Rock qui affrontera dans un instant Chaïm sur un quiz judiciaire. Clin d'œil à la série policière dans laquelle la chanteuse est apparue cette semaine dans le premier épisode de la saison 10 de Profilage diffusé sur TF1.
Douceur du rire, ivresse du savoir, vous écoutez l'équipée sauvage. Deux heures d'un véritable combat de boue entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 sous l'égide d'une invitée d'honneur. Aujourd'hui, la chanteuse Chaïm, devenue sous son vrai nom, actrice Tamara Marthe. On vous retrouve demain dans Profilage sur TF1. Pour vous préparer à ce rôle, vous avez suivi une formation de 3 semaines, c'est ce que j'ai lu. Alors 3 semaines, c'est bien. Eva, elle, n'avait eu qu'un cours de 2 heures pour se préparer à son premier rôle, celui de Morissette Bidochat, charcutière de Ménilmontant pendant la révolution de 1789, dans un podcast natif d'Europe 1, aujourd'hui tombé dans l'oubli. Forcément, il avait fallu plusieurs prises.
Ah, le cochon, qu'on lui fasse passer l'envie de fuir.
Je le refais ou pas? Ah, je le refais.
Ah, le cochon, qu'on lui fasse passer l'envie de fuir. Oh, le cochon, qu'on lui fasse passer l'envie de fuir. Ah, le cochon, qu'on lui passe l'envie de fuir.
Ça, c'était la bonne. C'est ça qui est fou.
Qui n'a jamais été prise.
Et le plus fou, c'est que vous avez été coupé au montage.
Vous m'avez fait répéter pendant des heures.
On se demande vraiment pourquoi. Alors, en revanche, c'est une première réussie pour Chaïm hein, dans Profilage demain soir sur TF1. Qu'est-ce qui était le plus compliqué, puisque tout était un peu nouveau pour vous dans un tournage?
Ouais, il y a une scène qui était très compliquée. Et c'est pas une blague, je devais tourner avec un cochon d'Inde. J'ai peur des rongeurs. J'avais un hamster quand j'étais petite, il arrêtait pas de me mordre, etc. Donc je suis restée un petit peu traumatisée. Et le cochon d'Inde est beaucoup plus gros que le hamster. Et donc voilà, je devais le prendre dans mes mains et ne pas lui faire peur parce que j'avais peur de lui faire mal, etc. Donc il fallait le manipuler avec précaution. Et au final, ça a été un bon coéquipier, un bon collègue. Mais,
il est très bon d'ailleurs, il faut le dire. Hein.
Ouais, il est pas mal, ouais.
Alors moi, je pensais que vous alliez nous parler du vocabulaire psychologique que vous avez dû ingurgiter parce que vous jouez une psychocriminelle.
Ouais.
Et Elisa Bergman.
Elisa Bergman. Et
déjà mon nom est dur à dire. Oui. Elisa Bergman. Alors, ouais. À chaque fois que je devais le dire, j'étais Elisa Bergman. Bonjour. Elisa Bergman.
Et vous avez des pans entiers de dialogue avec un vocabulaire très spécialisé, en fait. Ça n'a pas été compliqué
à apprendre ? Si, bien sûr. Tout a été compliqué. L'apprentissage des textes, évidemment. Moi, j'ai quitté les cours après le bac. Et donc, j'avais 17 ans, j'en ai 34 aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas appris les trucs par cœur. Et puis après, tout l'enjeu est de le dire avec une facilité, une aisance, et que ça paraisse naturel. Et puis, on se rend compte que le texte, il est changeable aussi. On peut se l'approprier.
Oui, c'est ça. C'est quand j'allais vous demander. Mmh. Vous avez pu modifier,
bien sûr,
soit des scènes, soit des dialogues.
Bien sûr. Alors après, une décompensation, ça reste une décompensation. Je peux pas dire autre chose, mais il y a des termes comme ça effectivement qui restent. Mais après, on se rend compte que voilà, le but aussi est de s'approprier le jeu, les mots, la scène et également ses vêtements. Enfin, des choses qui paraissent un peu anodines, mais qui font qu'on se sent plus et mieux dans le personnage.
Il y a un truc avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Je pense qu'aucun comédien, à part Nicolas Duvauchel qu'on recevait hier, qui lui s'en fout, c'est les
scènes.
Pourquoi
vous ne m'invitez pas en même temps que Nicolas Duvauchel? Je ne comprends pas.
La prochaine fois, on vous invitera tous les deux, mais il faudrait avoir un projet commun, sinon ça va se voir que c'est arrangé comme rendez-vous.
Ça peut marcher.
Ça peut être un concept.
Nicolas Duvauchel, il n'a aucun problème avec les scènes de nu. En revanche, vous, comme beaucoup, c'est quand même extrêmement gênant quoi, d'avoir le perchman comme ça. Enfin, c'est...
Ah ouais. Bah en fait, c'est pas forcément la scène de nu, la première que j'ai faite, je vais pas trop en dire pour pas spoiler, mais c'est une scène où effectivement qui est très esthétique, où je me retrouve nue, mais un peu cachée, et au final, une fois qu'on est sur le set, on oublie tout, évidemment, l'équipe est discrète, il y a une moitié de l'équipe qui sort, etc., mais je pense que ce qui m'a le plus intimidée, c'est la scène que je fais avec mon compagnon, dans la série, où là, il y a des gestes tendres, affectifs, qui doivent être encore une fois naturels, en plus, on ne joue pas une rencontre, mais on joue une complicité d'il y a des années, donc il faut aussi la sentir, il y a des nuances dans le toucher, dans les regards, etc., et ça a été hyper dur, j'avoue qu'il a fallu quelques shots avant de me lancer la première fois.
Ouais, pas autant qu'Eva Rock sur Morissette Bidochard, hein. Ça a été quand même
non,
plus rapide pour trouver le ton juste.
Le problème c'est que j'avais pas bu, peut-être que j'aurais pu
boire. Vous auriez dû picoler un petit peu, peut-être, c'est peut-être ça le secret des grands comédiens.
Ça détend.
Vous aimez Chaim, la chanteuse, découvrez Tamara Mart, l'actrice, elle sera demain soir dans Profilage sur TF1 et déjà sur Europe 1 cet après-midi.
16h, 18h, l'équipe sauvage sur Europe 1.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour étoffer votre culture G, dégripper vos zygomatiques et éventuellement pour Bibi, se rapprocher finement, tout en douceur, de l'invité. Pour taper dans l'œil de Chaim, l'idéal serait que la régie me tamise un peu cette lumière, que j'arrive à prendre ma voix d'homme, que je place mon anecdote de la fois où j'avais battu le record de l'épreuve de la machine à café dans Fort Boyard, sous le regard subjugué d'Olivier Mune, qui est d'ailleurs bien moins musclé que moi, je le signale. Oui, ça se présente pas mal. Je vais bientôt porter l'estocade en plongeant mes yeux verts dans l'ombre des siens. La seule chose qui pourrait casser mon cou à ce stade, ce serait que mon ordure de réalisateur ait enregistré ma réaction d'hier quand je vous expliquais pourquoi j'avais des paillettes sur le visage. Mais non, cette séquence en off où je monte dans les aigus comme Priscilla Paul du désert n'a pas dû être enregistrée. Comment ça, oui? Comment? Ah non! Ah, pas devant Chaim, hein! C'était un pchit magique de ma copine que je mettais en fait. Et dedans il y avait des petites paillettes. Il y avait écrit que c'était un désincrustant facial, je sais pas quoi là. Et en fait, c'est un truc gommant, tu vois. Et sauf que c'était gommant, mais en plus il y avait des petites paillettes dedans. Voilà. Et donc j'ai compris dans la douche ce qui s'était passé en fait. La vie, comme l'équipée sauvage, va continuer. Chaim, ce n'est pas tant Chaim que je reçois aujourd'hui, mais Tamara Mart, comédienne de profession. Profilage sur TF1 demain, c'est une parenthèse récréative dans votre carrière ou c'est un tournant? Est-ce que la chanson va être mise de côté un moment pour vous consacrer à votre nouveau métier?
De côté, oui, un petit peu, parce que ça prend du temps. Donc techniquement, je ne pourrais pas faire les deux en même temps. Mais non, c'est juste mettre des priorités à certains moments de sa vie. Et pour le moment, j'ai découvert un truc qui est évident, qui m'amuse énormément. Et la musique me manque déjà, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, quoi.
Est-ce qu'à votre niveau, une artiste est libre de ses décisions? Au sens où j'imagine qu'il y a un label de musique derrière vous qui vous dit « t'es gentil cocotte, mais il faut que tu sortes un album ». Ou vous faites ce que vous voulez. Si vous dites j'ai envie de faire de la télé, je fais de la télé.
J'ai fait en sorte de me mettre dans une écurie qui ne me met aucune pression et qui me permet d'être libre en tout cas sur toutes ces décisions.
Nul n'échappe à son destin, disait Aristote ou Jean-Claude Van Damme, enfin l'un des deux en tout cas. C'est l'heure du quiz. Chaim pour le duel du jour et pour rendre hommage à Profilage, nous allons tenter de savoir qui de vous ou de Eva Rock a le meilleur flair policier. C'est un quiz judiciaire, un vrai faux sur le crime. C'est parti. Anthony Garcia fait partie d'un gang californien. En 2008, il s'est trahi d'une façon étonnante. Laquelle? Eva, Chaim, 3 propositions. Il s'était tatoué la scène de son crime sur le torse. Son chien a déterré un cadavre dans son jardin. Il s'est fait greffer les dents de sa victime. Le dentiste a tout dit à la police.
Dis-moi que c'est la C. T'as dit A?
Non, moi j'ai
dit A.
Non, j'ai dit B.
Non,
le chien, j'aime bien le chien.
Le chien pour Eva.
Le chien.
Et vous, chien.
Tu vous faites pas les dents, chien?
Si, je pense que c'est la B, mais je veux dire les dents, c'est aussi la C. Ah. La C, sinon c'est pas drôle.
Eh bien, c'est ni drôle ni la bonne réponse. Vous avez faux toutes les deux. Écoutez. Il s'était tatoué dans le détail la scène de son meurtre. Or, aucune photo n'était sortie dans la presse. Quand il se fait arrêter pour un autre délit et qu'il est pris en photo torse nu, l'inspecteur fait tout de suite la connexion. Ils le mettent en prison avec des faux policiers chargés de le faire parler. Il ne va pas tarder à se vanter de son assassinat.
Quand on est con,
ah oui.
On est
là,
con.
Je crois qu'on peut
ça
le dire.
On peut le dire.
En 2016, en revanche, je tiens à saluer Sébastien Bordonnef qui prépare ce quiz. Pour avoir inventé, il s'était fait greffer les dents de sa victime.
C'est
le
horrible.
Dentiste a tout dit à la police. Parce que ça, pour que ça naisse dans l'esprit, il faut vraiment que l'esprit de cette personne soit malade.
Vraiment, et ben c'est
manière...
peut-être lui.
Peut-être lui d'ailleurs, oui. En 2016, aux États-Unis, dans l'état de Washington, Bizou Doudou Pity Bob Bob se fait arrêter. En quoi c'est insolite? Eva, Chaim, trois propositions. A, c'est une espèce de poisson exotique. C'est la dernière fois aux États-Unis qu'un animal a été condamné. 2, c'est un clown qui a humilié le maire de Washington et il a été en prison pour ça. Ou 3, c'est un homme. C'est juste un pseudo qu'il a choisi pour embêter les policiers.
B.
C'est un clown?
Ouais, c'est un clown.
Eva?
Un poisson.
Un poisson. Alors là, on est face à un cas rare dans l'histoire de cette émission et de ce quiz. Toujours aucune bonne réponse de personne.
Mais c'est génial.
Alors, bisous, doudou, doudou, bip, bop, bop, bop. Il a changé de nom juste pour ennuyer les policiers. Parfois, à cause d'un nom compliqué, une faute de frappe est possible et paf, vice de procédure.
Ah, c'est génial.
Du coup, il a mordu un policier pour se faire arrêter. Pas de bol, la police a utilisé son nom d'avant. Jeffrey Dew. Voilà, c'est original. À Los Angeles.
Il a figé par le quiz.
Pas du tout. À Los Angeles, Juan Catalan, comme la crème, est arrêté pour meurtre en 2003. Il risque la peine capitale, mais sera finalement innocenté. Comment? Eva, Chaim, trois propositions. A. Il était à un match de baseball et son avocat a retrouvé des images. B. Au moment du crime, des caméras ont montré qu'il vendait de la cocaïne 3 km plus loin. Ou C. Il a juré sur la tombe de Elvis que c'était pas lui, du coup on l'a cru.
C'est la A et j'ai vu le reportage. Ils ont retrouvé des caméras et c'est grâce à ça qu'il a été innocenté et c'est incroyable, on le voit avec sa fille.
Eva, c'est le moment de donner mauvaise réponse pour perdre le quiz. Oh, B, mauvaise réponse, vous êtes nul, Eva. Mais vous êtes vraiment nul à ce jeu. C'est Shine qui remporte le point. Il était à un match de baseball. Effectivement, bah, vous avez raconté le truc. À cause de la qualité médiocre des images, on n'a pas pu le reconnaître lors du premier jugement. Par contre, HBO a tourné un doc et là, on le voyait clairement manger un hot dog en public. Merci, HBO. En 1995, Klaus braque une banque à Berlin. Pourquoi ça a raté? Chaim, Eva, trois propositions. Parce que sa mère était dans la banque et lui a filé une rouste. Parce que millionnaire, il a changé... Parce que millionnaire, il a changé d'avis pendant qu'on remplissait ses sacs. Ou parce qu'il était sourd, du coup, il n'a pas entendu l'alarme.
Dis-moi que c'est la C, s'il te plaît.
Et moi, la A, j'adore la mère
la
qui lui met une rouste.
C'est parfait. Mauvaise réponse d'Eva, bonne réponse de Chaim.
C'est génial.
Il était sourd. D'après les témoignages, quand un banquier lui a demandé s'il voulait un sac pour mettre l'argent, il a répondu « Bien sûr que c'est un vrai pistolet. » En allemand.
Bien sûr que c'est un vrai pistolet.
C'est un peu belge, ouais.
Ah, ça va.
C'est l'Allemagne avec la frontière belge. C'est un endroit étonnant qu'on connaît peu en Nomadland. C'est vraiment étonnant. Alors, déduisant qu'il était sourd, ils ont déclenché l'alarme. Klaus, évidemment, n'a rien entendu. Il est resté très calme jusqu'à l'arrivée de la police.
Je crois que ça, c'est une vraie phrase en plus.
Mais vous auriez pu tourner dans Papy fait de la résistance. C'est donc Chaim qui remporte notre quiz.
Évidemment.
Je gagne quoi, une journée avec Nicolas Duvauchel?
Je vais vous donner son 06. Allez, je vous donne son 06. 06, 42. La suite en antenne.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, Eva Rock et avec à présent Anne Le Gall dont on va découvrir le sujet. C'était jeudi sur Europe 1 en présence de Bertrand Huskla. Vous savez, l'humoriste à l'origine de Brut, le média vidéo qui parodie Brut.
Quand le journalisme le plus rigoureux rencontre l'esprit festif d'une bande d'amis, c'est le cocktail détonnant que vous propose chaque après-midi l'équipe sauvage, des journalistes sérieux dans une émission de divertissement. C'est un peu comme si Patrick Cohen lançait une chenille dans les années bonheur en s'exclamant
« De toute façon, quand on a 4 grammes, on a 4 grammes !»
L'image est parlante, mais elle néglige une autre dimension de notre émission, son aspect compétitif. Chaque après-midi, vous votez pour votre journaliste préféré, sachant que la voix de notre invité d'honneur comptera triple. Aujourd'hui, Bertrand Huskla, génial créateur de Brut, la parodie du site d'information Brut. La vie, vous en avez conscience, mon cher Bertrand Huskla, est une compétition. Même Anne Le Gall, notre icône verte qui déteste le concept même de compétition, a fini par s'y plier. Occupant les avant-postes du championnat d'Europe 1 des meilleurs journalistes, elle tente de s'y maintenir à grand renfort de happening destiné à donner du relief à sa chronique. J'ai lu, Bertrand, qu'à une époque, vous vous plaignez de ne pas avoir de gros moyens pour réaliser vos vidéos. Je vous pose la question, savez-vous vraiment ce que signifie ne pas avoir de gros moyens? Écoutez ça et répondez-moi après.
Un maire, s'il le veut, peut-être un géant vert.
Géant vert.
Voilà, géant vert. En fait, on n'a pas les droits pour la publicité, donc...
Voilà, Bertrand Huskla, ce que c'est que de ne pas avoir de moyens. Bienvenue sur Europe 1.
Le plus pathétique, c'est ouais, pas tant qu'on n'ait pas des moyens, c'est qu'en plus elle me dit « chante géant vert » et moi je le fais, quoi.
Mais oui, c'est, vous réagissez, vous êtes une bonne camarade, effectivement. Ouais. Voici donc Anne Le Gall qui cherche aujourd'hui à nous entraîner dans les bois, une Émile Louis, comme on dit dans le petit milieu de la Valère. Allez-y Anne, je vous laisse là-dessus.
Alors ça se passe aux États-Unis, on est un petit peu loin d'Émile Louis. On vante souvent l'excellence du système universitaire américain. Les campus prestigieux. Mais là-bas,
on
les étudiants...
Son coût.
Exactement. En raison de la pression financière, les étudiants connaissent un niveau de stress assez hallucinant. Les deux tiers se disent avoir vivre une anxiété écrasante. 13% des étudiants américains sont diagnostiqués dépressifs. C'est pour ça que des chercheurs de l'université de Cornell, dans l'État de New York, se sont intéressés à une méthode naturelle pour aider ces étudiants. C'est la balade en forêt ou la balade dans le parc.
Là, Bertrand, il dit « je suis pas venu pour rien, il y a déjà une idée de sketch qui vient là. »
Non mais c'est très sérieux. C'est très sérieux. Ces chercheurs ont comparé les résultats de 14 études portant sur 700 étudiants âgés de 15 à 30 ans à travers le monde. À chaque fois, il a été demandé à ces étudiants d'aller se promener 10 minutes par jour dans une forêt ou dans un parc. Et les chercheurs ont ensuite mesuré leur pression artérielle, leur rythme cardiaque, leur taux de cortisol. Vous savez, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Ils ont aussi fait passer des tests pour mesurer la mémoire, la concentration, la créativité. Les résultats ont été publiés dans la revue Frontiers in Psychology. Et il apparaît clairement qu'un petit, comme ça, un shot de nature de 10 minutes a permis à ces étudiants de donc, réduire leur stress de façon considérable et améliorer les performances de leur cerveau par rapport à des étudiants qui n'auraient pas fait de pause dehors ou alors qui seraient allés se balader en ville.
Mais ça marche dans tous les parcs, si vous allez au Bois de Boulogne par exemple. Est-ce que les forêts ont toutes le même apport?
Ça marche aussi dans les parcs urbains. Il faut avoir des plantes, du verre. Et ça marche surtout au bout de 10 minutes. C'est ça qui est étonnant. Les effets démarrent à partir de 10 minutes et jusqu'à 50 minutes. Donc au-delà de 50,
ça les effets stagnent. Ça ne sert plus à rien. Il ne faut pas exagérer non plus. On arrête son 4x4, on garde le X5 devant. On va faire 10 minutes. Et ensuite, on écoute Dr. Dove, on rentre.
Voilà. Et la posologie optimale, c'est 3 fois 20 minutes par semaine. Et là, on a un cerveau au top. Tout ça donc figure dans la très sérieuse étude de l'université de Cornell. Alors, comment des shots d'arbres, des balades en forêt peuvent-ils avoir un effet vraiment chimique, physiologique sur l'organisme? Eh bien, écoutez cette explication de Pascal Derme. Elle est la réalisatrice du documentaire Natura, qui est une grande enquête scientifique sur les effets de la nature sur la santé.
Les arbres émettent des phytoncides qui sont des hormones de protection contre les insectes et les bactéries. Et ces phytoncides que l'on peut sentir, qui ont des arômes de citron, de pin, qui sont émises beaucoup par les résineux, mais aussi par les chênes et les hêtres, protègent les arbres contre ces insectes, mais nous protègent aussi, et plus précisément, renforcent notre immunité naturelle.
C'est merveilleux, quand les arbres se protègent des insectes, ça
mais
nous
donc
donne
si je fais 10
immunité.
Minutes de marche autour du yucca de notre plante commune de l'open space.
Alors,
ça va me faire du bien.
Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y a la balade, le contact avec la nature, et il y a aussi la vue. Rien que la vue du verre, ça a déjà un petit effet sur le cerveau. Voilà, donc je pense que depuis quelques minutes, donc les effets démarrent au bout de 10 minutes. Donc je pense que vous vous sentez mieux déjà un petit peu.
Ah oui, vous nous entraînez en forêt là.
Oui, j'essaie de vous mettre dans l'ambiance.
Elle racole à mort pour avoir les points, c'est
ça
pas gagné. Merci Anne Le Gall. Votre chronique mérite-t-elle les 3 points de la victoire? Notre invité a jusqu'à 18h pour ce test.
16h, 18h sur Europe 1.
L'équipée sauvage.
Et c'est tous les après-midi avec Mathieu Noël, entouré de sa complice et des journalistes de la rédaction d'Europe 1. Alors lundi, il accueillait l'acteur Nicolas Duvauchel, acteur principal du nouveau film de Mathias Malzieu, Une sirène à Paris. Et il a pu découvrir le sujet de Nicolas Caro qui a choisi de parler d'une librairie qui vend du poème au poids.
Rentrez chez soi avec le sourire aux lèvres et un peu moins inculte, vous écoutez l'équipée sauvage. Deux heures d'une lutte épique entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 sur le ring du studio Coluche. Pour les départager, vous bien sûr, via Twitter, mais aussi notre invité arbitre, aujourd'hui le comédien Nicolas Duvauchel. Nicolas, je vous remercie d'être avec nous cet après-midi, car même si vous défendez à juste titre ce très beau film Une sirène à Paris, vous êtes aussi, on peut dire, un peu anti-star system. Vous n'êtes pas du genre à enchaîner les promos, à traîner dans les soirées mondaines pour côtoyer les réalisateurs et vous vendre. C'est pas vous ça, hein. Vous êtes un peu différent.
Oui. Vous différent, je sais pas, mais oui, moi c'est pas ma cam. Voilà. Après, moi je pense que ça doit venir l'envie doit venir du réalisateur et on doit pas se vendre comme un produit. Mais après, chacun fait comme il l'entend. Hein. Moi, c'est ma façon de faire.
Oui. Ouais, vous dites, je suis pas trop dans le game, comme disent les jeunes.
Ouais, c'est vrai. Bon, oui. Après, je dis ça, mais on pense à moi quand même. Hein,
oui, tant qu'on pense à vous.
Je suis pas oublié, ça va. Mais oui. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Oui, mais oui.
Oui, mais d'accord. Oui. C'était très une Anicène Bida, qu'on appelle ça dans le petit milieu de la radio. Face à vous, lui aussi, je l'ai repéré dans une salle de boxe. Il tapait dans un sac, il y croyait.
It ain't over till it's over.
C'est pas fini tant que c'est pas fini.
Hélas, le sac a eu le dessus. Il s'est réveillé aux urgences. Voici notre expert littérature, Nicolas Caron. Nicolas, la poésie, c'est bien. Vous en vantez souvent les mérites à l'antenne d'Europe 1. Mais la poésie au kilo, c'est mieux.
Oui, j'ai vu ça sur le site Actualité avec deux T qui trouve toujours des pépites.
C'était pas sur Logographie
de littérature. Non. C'est très sérieux. Cette fois, donc, il nous présente une nouvelle librairie dans le quartier latin à Paris. Ils vendent des romans français ou étrangers. Jusque-là, bon. Des recueils de poésie, ça, c'est un petit peu plus rare. Mais dans le fond du magasin. Il y a une balance à l'ancienne avec des plateaux. Et à côté, il y a des feuilles cartonnées, très jolies, genre carte de vœux, avec des poèmes donc inscrits dessus. Vous en prenez quelques-uns, vous les choisissez, vous pouvez les lire, hein, ils ne sont pas sous enveloppe. Vous les pesez et c'est comme les bonbons, vous payez au poids. Alors
c'est mignon.
Vous allez me demander, c'est cher?
Exactement.
Oui.
Nicolas, je suis subjugué, je vous regarde dans les yeux, en fait, j'en oublie les relances.
Non, c'est pas très cher. Enfin, 5,80€ les 10 grammes. Ça représente 8 poèmes, à peu près. C'est en libre service. Vous prenez, vous pesez, vous payez. Des poèmes d'amour en ce moment, puisque c'est le thème. Et en poésie, c'est pas ce qui manque, les poèmes d'amour. Alors, ce sont des classiques pour la plupart, parce qu'il faut qu'ils soient dans le domaine public pour que l'affaire tourne un petit peu. Sinon, ce n'est pas faisable.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit d'auteur.
Voilà. Et en plus, Pascal Brunel, la gérante de la librairie, reverse 50 centimes sur ses 5,80€ pour venir en aide aux habitants pauvres de l'île de Roum au large de la Guinée.
Mais alors, je trouve que c'est pas mal parce qu'on ne sait jamais quoi apporter dans un dîner. Ça peut faire la différence.
Mais
en plus,
oui.
Vous avez le storytelling derrière, vous racontez
c'est
la
parfait.
Petite histoire,
exactement.
Vous avez pesé. C'est pas mal.
Il y en a marre des fleurs. Et d'ailleurs, ce n'est pas incompatible. Les libraires songent à proposer le concept, mettre des points de vente chez les fleuristes.
Bah oui,
parce
qu'en
plus des fleurs, au lieu de mettre un petit mot,
ouais.
Vous avez le poème.
Parce que souvent, on n'est pas très inspiré par le petit mot,
il
faut dire ce qui est.
D'écrire.
Bien sûr. Oh, petite ordure, tu n'auras pas mon point, toi, aujourd'hui. Tiens.
Mais moi, je ne suis pas poète. Il pense aussi à parfumer les poèmes
en
intégrant.
Ah non, ça, il ne faut pas ça.
Non, alors ça, c'est, non, ça rappelle l'adolescence.
Dans la pâte à papier.
Non, ça, ce n'est pas une bonne idée.
Mais si, mais ils ne font pas un pchit, c'est une technique spéciale dans la pâte à papier, c'est intégré dedans.
Oui, mais non.
On a parlé des odeurs des livres l'autre fois.
Oui, mais je.
On a dit non.
Ah, d'accord.
On a dit non, tu continues.
Il y a un traumatisme de lettre d'amour là. Bon, et puis ce qui est super quand même, c'est que ça peut permettre de faire découvrir la poésie. D'après les libraires, les gens achètent parfois un recueil après avoir acheté quelques grammes de poésie parce qu'ils ont trouvé ce petit poème joli. Ça nous est tous arrivé de voir, soit sur les réseaux sociaux, soit même dans une pub parfois, ou tagué sur un abribus un poème. Puis ça nous trotte dans la tête, on finit par chercher qui a écrit ça et puis finalement, éventuellement, ensuite on achète le recueil.
C'est une bonne idée.
Sur Instagram, il n'y a que ça, quoi, des photos de cul avec des. Pardon. Des fesses avec des poèmes. Non, mais
les gens
font ça, les Instagrammeuses et les Instagrammeurs font ça très bien.
Il y avait eu une autre initiative un peu proche que Actualité nous rappelle aussi. C'est un libraire de l'Orne qui avait envoyé 2500 cartes postales avec une poésie dessus à 2500 inconnus trouvés dans l'annuaire au hasard. C'est joli ça aussi.
C'est joli. Et c'est pas la première fois qu'on vend des livres au kilo.
Non, ça existe déjà. Il y a quelques magasins de livres d'occasion qui font ça. C'est des solderies, quoi. 1€ le kilo.
Oui, mais c'est souvent des livres pratiques de cuisine, jardinage,
pas forcément,
etc.
Des vieux livres, des livres d'occasion, en tout cas.
Ouais. On parlait d'Instagram. Vous êtes pas mal présent sur Instagram, vous, Nicolas Duvauchel. Il y a vraiment deux écoles. Hein.
Très présent, non. Bah, je pose pas beaucoup, mais oui, par oui, je poste des trucs et tout, oui, pour la promo, tout ça, oui.
Oui, vous êtes quand même un petit peu dans le game.
Oui.
Hein,
non, mais je suis dans le game. calme-toi. Non, oui. C'est vrai.
Alors Nicolas Caro, on vous remercie pour cette chronique. Vous avez le droit de donner l'adresse de la boutique ou c'est trop de la pub ?
J'ai le droit, mais je sais juste que c'est rue Lacépède dans le 5e. Je me rappelle si ça doit être le 49 rue Lacépède de mémoire.
Eh bien, nous vérifierons. Et si jamais ce n'est pas le 49, eh bien vous n'aurez pas les points. Vous ne serez pas élu chroniqueur du jour tout à l'heure, juste avant 18h.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
L'équipe est sauvage continue avec notre invité Nicolas Duvauchel. Et face à vous maintenant, Nicolas, un prodige de la nature. Chroniqueur gastronomique tournant à 15 000 calories par jour, rédacteur en chef à la Revue du Vin de France et donc tournant à peu près 3 grammes par jour. Vu ce qu'il se met, question sport, il devrait normalement être sous assistance respiratoire et réussir 2 pompes d'affilée max et encore, élitreillé. Pourtant, la semaine dernière, il nous a épaté, déconcerté, en gainant pendant 2 minutes 30 dans la célèbre position de la planche. Il défie les lois de la biologie et de la gravité d'un rire sonore. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, et je vous remercie de dire à la France entière qu'effectivement, j'ai réussi ce pari et qu'il va coûter très cher à Eva. Mais bon, ça c'est entre nous.
Bah non, on peut le dire, hein, ça va me coûter vraiment très très cher, parce que j'ai eu l'idiotie de prétendre que vous n'allez pas y arriver, mais voilà.
Mais donc, c'est vrai que pour quiconque vous connaît, Olivier, personne n'aurait misé là-dessus quand même. Hein. Ouais. Donc on vous dit bravo. Alors, tous les soirs, une recette épatante et facile que même moi je suis en mesure de réaliser, c'est pas peu dire. Au programme ce soir dans Délices in Extremis, quelque chose justement de dédié à Eva.
Oui, car je sais qu'Eva, friande de fromage, a toujours cette question existentielle quand arrive le lundi.
Bien sûr.
Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec tous ces petits restes dépareillés du magnifique plateau de fromage que je suis allé acheter le samedi matin au marché ? Et c'est vrai que c'est un problème. On arrive le lundi et puis il reste un petit bout de camembert qui a commencé à couler un peu. Mmh. Il reste une boîte de Mont d'Or à moitié entamée, quelques morceaux de chèvre, une lichette de Roquefort. Et on ne sait pas très bien. C'est plus présentable pour en refaire un plateau de fromage. Et donc, je vais vous proposer une recette pour recycler tout ça dans une préparation facile, simple et rapide. Alors, vous allez donc rassembler tous vos morceaux de fromage. Vous pouvez avoir du chèvre, du comté, du brie. Vous enlevez les croûtes qui sont les plus dures et les moins agréables à manger, donc pour ne garder que l'intérieur et la chair du fromage. Vous prenez 3 œufs que vous allez battre comme une omelette. Vous rajoutez 20 cl de crème, 10 cl de lait, un petit peu de poivre. Vous prenez une pâte brisée par exemple, que vous mettez dans un plat à tarte. Vous mettez tous vos petits bouts de fromage dépareillés comme ça sur votre pâte en les dispersant un petit peu partout. Vous versez donc l'appareil avec les œufs, le lait, la crème et vous enfournez ça pendant une trentaine de minutes dans un four à chaleur.
Tournante.
Il y en a une qui suit à 180 degrés.
Une quiche, quoi.
Et vous avez une délicieuse quiche au reste de fromage qui va mélanger les saveurs de tous vos fromages. Et je vous garantis que c'est très bon. Et
Olivier,
même Eva peut-être va accepter de goûter.
Jamais,
Olivier,
jamais.
Vous avez eu la gentillesse dans notre vie privée, qu'on peut révéler ici, de m'entraîner dans les meilleurs restos de France, dans les restaurants les plus gastronomiques. Et là, vous nous proposez une grosse quiche avec plein de frometons dedans, on fout dans le four. Vous êtes vraiment incroyable, Olivier. Et délice in extremis, mais parfois on peut quand même un peu complexifier. Mais merci beaucoup, Olivier Pouls, pour cette magnifique recette. Et je vais pouvoir le faire, puisqu'il me reste effectivement des restes de fromage de ce week-end. Je crois, Nicolas, que vous avez vu vos petites exclamations durant la chronique, je crois que vous êtes un amateur de fromage.
Ouais, et je vais filer direct après l'émission chez mon fromager. Je vais foncer, ça y est, j'ai faim.
Mais ça m'étonnerait que vous essayiez la tourte, en l'occurrence.
Il n'y aura plus de reste, il n'y aura pas d'y, jamais de reste avec moi.
Voilà. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Et l'équipe est sauvage se poursuit juste après les infos de 17h avec Mathieu Noël, mais aussi l'auteur, compositeur, interprète Kali qui était venu cette semaine nous parler de son nouvel album Cavale, c'est déjà le 9e. Côté chronique, eh bien il faut sauver le ciel étoilé, nous dira Alain Sirou. Frédéric Michel nous parlera d'un manège à propulsion parentale à Nice. Anis Mbida a choisi de parler d'une semelle connectée et bon après-midi avec nous sur Europe
1. Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Et on reste avec Mathieu Noël pour la suite de notre compilation du week-end, autour duquel on va retrouver sa grande complice Eva Rock, nos chroniqueurs, compétiteurs et nos invités d'honneur. Ils étaient avec nous cette semaine, alors une semaine qui s'étire depuis, depuis le 6 mars jusqu'au 12, voilà, j'avais un doute. On va retrouver la chanteuse Chaim, chanteuse et actrice, mais aussi les comédiens Nicolas Duvauchel et Bertrand Huskla, MC Solar, sans oublier l'auteur, compositeur, interprète Kali.
Du miel pour vos neurones, du piment pour vos zygomatiques, vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures pour prendre l'actu du bon côté, même si on va pas se mentir, on a tous commencé à faire des stocks de pâtes, rapport à qui vous savez. Justement, le temps qui nous reste, les amis, occupons-le intelligemment.
Allongé sur la paille aux côtés d'une jeune femme.
Oui, ou en recevant, des plus talentueux chanteurs français de ces dernières années. Kali est avec nous cet après-midi. Ensemble, Kali, on écoute votre nouvel album disponible vendredi.
Tu me manques, mon bébé.
même temps, j'aime bien cette émission parce qu'elle permet de faire découvrir un nouvel album d'un artiste, mais oui, c'est toujours très frustrant de diffuser des petits bouts. Oui. La qualité de, alors je suis pas musicien, mais de l'enregistrement studio, je sais pas comment le qualifier, ouais. est incroyable dans cet album. Vous nous racontez un peu la genèse de comment il a été fait.
Alors, je sortais d'une tournée Léo Ferré avec Augustin Charnet, un jeune de 23 ans. Et j'ai écrit cette chanson-là qu'on écoute, là, maintenant, Caval, avec guitare-voix. Et je lui dis, amuse-toi avec ça, amuse-toi comme ça. Il a déshabillé la chanson, c'est lui qui l'a rhabillée avec cette robe de princesse. Et j'ai dit, mais j'adore ce son nouveau pour moi. Mmh. Alors on a travaillé sur des sons à lui, on a mélangé. Il vient de la culture, son papa était un des meilleurs amis de Nougaro. Donc il a cette culture de chanson en même temps qu'aujourd'hui les jeunes qui écoutent de la musique à l'instant T, ils parlent avec des chanteurs de New York ou de Moscou, d'Abidjan en même temps. Ils malaxent tout ça, ils recrachent ça. Et j'ai profité de tout ça et pour moi c'était totalement nouveau. C'était jouissif, on s'est beaucoup amusé. C'est bien quoi, un 9e album, de prendre toujours de plaisir à retrouver des choses nouvelles. Ouais.
Beaucoup de sensibilité dans cet album consacré à l'adolescence. Votre adolescence, vous étiez un peu punk à l'époque, si je ne m'abuse, Kali.
Oh, j'écoutais beaucoup de punk et mon premier groupe était punk. Et
oui,
puis,
il avait un nom un petit peu étonnant, ce premier groupe, qui a choqué Eva, qui m'a appelé pour savoir si c'était vrai ou si c'était une blague que j'avais mise dans les fiches.
Quel était le nom de mon groupe alors?
Eva, je vous laisse le dire.
Non, bah, je comptais sur
mais
vous.
Ça pourrait
Mathieu.
Me servir pour, un, pour un, ah ouais, une autre non, émission.
Ça, vous avez assez de son
dites-le,
pour moi.
On va faire un grand silence et puis vous l'annoncez, comme si vous les annonciez à l'Olympia. Et maintenant, en première partie.
Le groupe Pénétration Anale.
Magnifique ouais. Voilà, ouais. Ça c'est un. Au moins, ça c'était un nom choc.
Quel vice là.
C'est rigolo. Merci beaucoup. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons, je vous écoute comme ça.
Le premier la direction d'Europe 1 aussi. Hein,
ah, non, mais le premier et dernier concert des PA, quoi. Donc on a joué.
C'est ça qu'il fallait dire, en fait.
On a joué au lycée, à notre lycée, comme ça. Et puis pour pouvoir jouer, on a donné au directeur du lycée le en faux nom. On a dit qu'on s'appelait les Lutins Verts.
Et,
mais par contre on a donné le vrai nom au DJ qui faisait la soirée. Et puis il a dit. Et tout à l'heure, les. Pénétration anale. Et quand c'était à nous, quoi, il a dit à vous les anales. Je me souviens, ouais. On a fait une chanson, bagarre générale, et ça s'arrêtait là, la carrière. Mais je tiens à préciser qu'il y a un dictionnaire du punk qui vient de sortir et
dedans.
Les PA sont dedans. Ouais, je suis très
fier. C'est bon,
ouais.
Pour l'éternité, pour la postérité. Son nouvel album s'appelle Caval, il sort vendredi. Kali passe l'après-midi sur Europe.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour booster votre culture G, gainer vos zygomatiques et découvrir un invité sous un autre angle. Aujourd'hui, il vient nous présenter son nouvel album Caval, disponible vendredi. C'est Kali, un artiste qu'Eva adore et dont elle connaît toute la discographie.
Il y a une chanson où tu ne comprends rien, c'est Un autre Finistère.
Oui, bien. Alors, très bien. Kali, vous n'êtes pas que chanteur.
Non, mais c'est vrai. Bah, non, il faut préciser. Je parlais des Innocents et une chanson que j'adore. Un
vous
n'avez
jamais compris cette chanson.
Écoutez les paroles et vous me dites si vous comprenez quelque chose.
C'est de la poésie.
Mais
Eva.
Peut-être. Bon,
t'es obligé d'être toujours au premier degré.
Un indice, Finistère, c'est un département.
Ah, c'est ça. Je ne savais pas. Voilà. Je savais qu'il me manquait un truc. Mais si vous me dites rien, Mathieu aussi, quoi, c'est pas possible.
Mon Dieu. Kali, vous n'êtes pas que chanteur. Vous aimez aussi le rugby. On imagine que vous avez souffert devant le match de l'équipe de France dimanche.
Ouais, je ne l'ai pas regardé.
Ah, vous avez bien fait.
Carrément. Et vous êtes aussi champion de France. De quelle discipline?
Je dois le dire?
Dites-le.
La pétanque.
Oui, mais moi j'ai une information supplémentaire. La pétanque en triplette. C'est juste jouer à trois à la pétanque? C'est quoi, c'est quoi la spécialisation?
C'est ça, il y a un pointeur, en milieu, en demi, quoi, et en tireur.
Donc vous êtes vraiment à un très très gros niveau en pétanque pour être...
Je l'avais. Après ça, maintenant j'ai perdu beaucoup, mais j'aime beaucoup ce sport. Et puis j'ai pas la télé, mais parfois à l'hôtel, quand je regarde... j'ai le droit de citer des chaînes ou pas?
Vous avez tous les droits.
Alors, sur l'équipe 21, il y a souvent de la pétanque. Ouais. Et je trouve les commentateurs exceptionnels. Et vraiment. Et je reste scotché, je ne peux pas sortir. Et alors, ce qui est merveilleux avec la pétanque, c'est qu'ils mettent des micros.
On entend tout ce qu'ils disent. Et parfois, ils disent des grossièretés, ils s'engueulent.
Non, mais ce qui est génial, c'est qu'ils parlent comme nous, avec un Ricard, en plein soleil, l'été. Ce sont les mêmes choses, les mêmes tactiques. Alors, ils jouent mieux, c'est tout, quoi.
Oui,
mais c'est ce que j'adore. Ouais.
On recevait Mathias Malzieu récemment à ce micro et Nicolas Duvauchel hier. Décidément, on a reçu tout le casting du film. Vous jouez dans son film,
oui,
Une sirène à Paris.
Bon, je suis très fier.
Vous faites un passage rapide.
Deux petits passages rapides.
Puisque vous décédez, on peut le dire. C'est
oui.
pas spoiler le film
non,
que
non,
de le dire.
Non, hein, vous cédez au chant des sirènes. Oui. De la sirène, en l'occurrence.
Mais céderez-vous au chant de notre sirène à nous? Voici notre célèbre quiz. Kali.
Ah ben voilà, vous en perdez votre voix.
Je suis puni. Le petit Jésus me punit, comme disait ma grand-mère. Cali, pour le duel du jour, nous voulions rendre hommage à votre premier groupe de lycée dont le nom...
Ah ben non, PA.
PA pour pénétration anale, rappelons-le, peu choqué, effectivement. Du coup, on va jouer à un vrai faux titre de groupe de rock. Chacun votre tour, je vous donne un nom. À vous de deviner si ça correspond ou non à une formation musicale. C'est parti. Eva, si je vous dis Rodriguez au pays des merguez, vrai ou faux nom de groupe? T'es Patrick Cohen, taisez-vous.
C'est un film.
Mais
j'ai pas dit si c'était un groupe ou pas, je dis c'est un film.
Bah, j'aurais adoré que ça soit un groupe, mais bien sûr, maintenant je sais que c'est pas un groupe, c'est un film. Voilà.
Faux
groupe. Une fois que je gagne un point.
C'est un film sorti en 1980. La mémoire,
mais comment
du,
vous connaissez
la mémoire
ça, quoi.
Du cinéma et la mémoire du muet peut
Philippe,
nous en parler.
Philippe Clair.
Je sais que c'est avec Gérard Hernandez, c'est la seule information
donc
qu'on m'a donnée.
C'est un film de Philippe Clair.
Parodie du site de Corneille.
Patrick,
vous ne jouez pas sur le quiz, je le rappelle. Cali, si je vous dis les mouets, vrai ou faux nom de groupe?
Les quoi?
Mouets.
Ah, les mouets, comme mouets, quoi. Enfin, M-O-U.
Oui, oui, je crois qu'on avait bien compris.
Non, on n'avait pas compris, c'est pour ça qu'on vous regarde.
Vrai.
Vrai, faux groupe. C'est une ville de Loire-Atlantique à 46 km de Rennes. On embrasse les Mouésiens qui nous écoutent sur le 104.7. Eva Rock, si je vous dis le Nelson Mandela et son orchestre, vrai ou faux nom de groupe?
Oh oui, ça doit exister, ça.
C'est un faux groupe, par contre, il existe content, mieux. Le groupe Nelson Montfort Orchestra. Beaucoup plus intéressant, ils ont sorti un album en 2007 avec les magistrales flatulences. On en écoute 4 secondes. Ah oui, effectivement.
Ouais, c'était surtout du bruit, non?
C'est de la musique.
La musique
Cali, si je vous dis les Sexy Sushi, vrai ou faux nom de groupe de techno?
Vrai, absolument.
Ah, vous le connaissez?
Absolument.
Oui, oui. Bonne réponse. Au bluff.
Il y a une grosse escroquerie là. Oui.
Mais bien joué. Eh bien, leur dernier album, Vous n'allez pas repartir les mains vides, est sorti en 2013. En 2010, ils ont sorti un titre qui a fait polémique. Ça s'appelait Meurs Jean-Pierre Pernaut. Alors, c'est un petit peu violent. Je vous propose d'écouter 4 secondes d'un autre titre, Princesse Voiture. Mais je crois que c'est une chanson qui parle d'une expérience que vous avez vécue, Eva, non?
Pas du tout.
Vous avez collaboré avec Sexy Sushi.
Non, non.
Eva Rock, si je vous dis « Écoute ta mère et mange ton short », c'est un conseil ou c'est un groupe?
Écoute
ta mère et mange ton short.
Un groupe.
Écoute ta mère et mange ton short. Vrai groupe de musique.
Oui.
Bertrand, Christophe, Yann et François forment ce groupe de rock pour les adultes et les enfants. 4 secondes de « Écoute ta mère et mange ton short ».
Steak, 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 steak.
Voilà. C'est très bien.
On découvre des... Même vous, Patrick, vous ne connaissiez pas.
Mais dans la playlist d'Europe 1, bientôt.
Très bientôt sur Europe 1, en exclusivité. Dernière question qui va vous départager, Cali. Si je vous dis pneu, vrai ou faux nom de groupe?
Absolument, ouais.
Vrai groupe, ouais, encore bluff?
Ah non, ouais, je les connais, les pneus.
Ah oui, c'est l'heure de gloire, les pneus. Voici 7 secondes de pneus. Ah, j'aime beaucoup, surtout les paroles. Mais c'est Cali qui remporte le quiz du jour. Son nouvel album est beaucoup plus délicat que le nom de son premier groupe de rock. Cali passe l'après-midi sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
L'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock, et avec à présent notre spécialiste ciel et espace Alain Sirou, dont on va découvrir le sujet. C'était ce vendredi sur Europe 1, vendredi 6 mars, en présence d'MC Solar.
Longtemps, pour nous parler astrophysique, faute de moyens, on a été obligé de s'en remettre à Eva Rock.
Sans lune, pas d'éclipse. C'est triste.
Au-delà de la qualité logique du raisonnement, j'avais envie de plus d'explications. Voilà pourquoi j'ai embauché ni plus ni moins que le directeur de la revue Ciel et Espace, un type brillant qui connaît tout de l'astronomie. Bon, certainement au prix de 40 ans de psychanalyse.
Ouais, j'ai un prof de maths qui m'a montré la lune, depuis je suis jamais revenu.
Mais le résultat est là, il est fortiche et c'est bien là l'essentiel. Aujourd'hui, Alain, vous êtes fâché, mais fâché pourquoi ?
Fâché parce qu'il risque d'y avoir beaucoup plus de satellites visibles dans le ciel, donc brillants, que d'étoiles visibles à l'œil nu. Alors, pour
à quelle
comprendre
échéance
ça, alors, dans les années qui viennent, pour comprendre ça, je vais partir de loin, je vais partir de Platon. Vous savez que Platon disait qu'il qualifiait la musique et l'astronomie de sciences jumelles. Pourquoi ? Parce que, finalement, le ciel est musicien, on peut l'écouter, on peut le regarder. Et puis, regarder le ciel, si je puis dire...
C'est Platon ou Doc Gynéco qui disait ça?
C'est Platon. Et comment dire, et la musique vous emmène au ciel. Ça, je pense qu'on sera d'accord avec MC Solar. Et les astronomes, évidemment, n'écoutent pas le ciel autrement que par des radiotélescopes. Mais quand ils mettent ces ondes en son, je vais vous faire écouter quelque chose d'original. Les gens du Hubble Space Telescope, donc l'institut qui travaille avec le grand télescope spatial Hubble, ont mis en son des étoiles et des galaxies telles qu'on pourrait les écouter si on était musicien. Écoutez bien. Alors on est dans l'univers, on entend ces étoiles, ces galaxies lointaines, etc.
Ah, téléphone portable.
Attendez. Oui. Vous imaginez une salle de concert où finalement tous les spectateurs ont des téléphones portables et les téléphones portables se mettent à sonner. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive. C'est-à-dire que, depuis quelques mois, on voit partir dans l'espace des tas et des tas et des tas, des centaines et bientôt des dizaines de milliers de satellites supplémentaires qui sont des méga-constellations, comme on les appelle, et qui sont visibles dans le ciel comme des étoiles supplémentaires. Alors pourquoi ? Parce que on veut, alors quand je dis on, c'est des sociétés commerciales, connecter la Terre entière à Internet.
Ah, ça part d'une
mais aussi, ça part d'une bonne idée, bien sûr. Mais aussi connecter votre frigo avec votre voiture, ça je suis moins sûr que ce soit intéressant. Mais c'est-à-dire, il y a une vraie bagarre aujourd'hui pour avoir des satellites dans le monde entier qui connectent tout et tout le monde. Et ça se traduit en méga constellations qui sont en train d'arriver. Elles sont lancées en ce moment même. Il y a une autorisation qui a été donnée pour pratiquement 21 000 satellites pour les mois et les années qui viennent. Et on pense que si rien n'est fait très vite, c'est 50 000 satellites qui vont partir dans les 2-3 ans qui viennent. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien évidemment, les nuisances, ça peut être des collisions entre satellites dans l'espace, mais surtout, c'est des nuisances visuelles. Les observatoires, les radio-observatoires vont entendre en continu ces satellites. Les astronomes qui ont payé des grands télescopes, les États qui ont payé des grands télescopes au Chili, à Hawaï, aux Canaries, etc., commencent à voir passer sur les images du ciel tous les satellites en grappe, c'est vraiment absolument épouvantable.
Mais attendez, juste une question. À l'œil nu,
nous,
à l'œil nu, c'est ce que vous voulez dire. Non, mais quand vous dites on les confond, on peut les confondre avec une étoile.
Alors, en fait, ils sont aussi brillants. Non, on ne peut pas les confondre avec une étoile. Ils sont aussi brillants pour certains et parfois plus que des étoiles. C'est-à-dire qu'on va voir passer des traînées. Vous voyez, passer des avions dans le ciel.
On croira une étoile filante, on fera notre vœu et en fait, c'était un satellite.
Bah oui, puis
le problème. C'est jamais arrivé de dire tiens, regarde, il y a la grande ours. Mais non, c'est un satellite.
Non, mais c'est terrible pour les
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment un risque d'avoir... On voit à peu près 3000 étoiles à l'œil nu quand le ciel est beau. On en aura des dizaines de milliers. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, aujourd'hui, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de gendarmes. Il y a strictement... C'est le Far West, vraiment, clairement. Il n'y a rien qui a été édicté. Donc, il faut faire quelque chose. Les astronomes protestent, mais bon... Il y a un astronome pour 100 000 habitants en France, c'est-à-dire qu'il y a 600 astronomes en France, c'est pas grand-chose. Donc la protestation, c'est même pas entre la gare et la poste. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être convaincre l'ONU que le ciel est peut-être un patrimoine commun à l'humanité, parce qu'il n'y a pas que les astronomes. Pour montrer aux enfants le ciel, pour faire de la poésie, pour avoir le droit à la paresse, comme vous le dites, MC Solar, pour juste comprendre le lien que nous avons entre la Terre et le ciel, voir les étoiles, c'est profondément indispensable, et ça, on ne peut pas le gâcher.
Vous avez terminé sur une belle note de poésie, mais j'aimerais connaître la réponse à ce que vous disiez tout à l'heure. D'où vient le nom MC Solar ? Pourquoi Solar ?
Alors, moi, j'avais pensé au début, c'était l'enquête que nous n'avons pas menée, ce que ça voulait dire Magellanic Cloud, c'est-à-dire nuage de Magellan, l'étoile du nuage de Magellan. En fait, ça veut dire maître de cérémonie, c'est ça ?
Non, ça c'est non, MC, ça. Sirou Sirou, il a raté la vague du rap en entier, dès le départ. Quoi. Non, c'est sur le mot solar qu'on a.
Pardon. Ah non, moi c'était MC. Moi.
Ah vous, c'était MC ?
Ah bah oui, parce que solar, pour moi, c'est soleil. Pourquoi ? Il n'y a aucune ambiguïté sur... C'était MC qui me posait problème.
Ah, c'était MC qui vous posait problème. Et donc, solar, vous venez de découvrir soleil. Là, on est en 2020, Alain Sirou vient de découvrir que MC, c'était Master of Ceremony.
Oui.
Eh bien, c'est un grand moment. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour Sirou. Merci Alain.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Avec Mathieu Noël, toujours entouré d'Eva Rock et maintenant de l'acteur Nicolas Duvauchel, venu ce lundi sur Europe 1 nous parler du film dans lequel il tient le rôle principal, Une sirène à Paris, le nouveau film de Mathias Malzieu, déjà reçu d'ailleurs par Mathieu Noël. Place donc à un nouveau sujet, celui de Frédéric Michel.
Vous écoutez l'équipe sauvage, deux heures de détente, tantôt cocasse, tantôt émouvante, comme nous allons le découvrir maintenant en filant à Nice, ville qui a vu naître ma sirène à moi. Eh oui, Nicolas Duvauchel, chacun sa sirène, vous Marilyn Lima, moi Eva Rock, direction Nice.
Heureusement que vous me portez pas.
C'est vous. Et j'ai laissé là un blanc pour que vous vous tiriez vous-même une balle dans le pied et vous l'avez fait admirablement.
Ah non, mais c'est un
bravo, Eva,
c'est un tour de rein obligatoire.
Vous êtes fine comme un roseau, ma chère. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous.
Alors, on prend aujourd'hui la direction des arènes de Nice. Frédéric, je rappelle, vous êtes notre correspondant évidemment sur la Côte d'Azur. Vous avez testé pour nous des manèges à propulsion parentale. Bien ça.
Oui, c'est des manèges à propulsion parentale. C'est tout simplement des manèges à actionner à la force des bras. Papa, maman, papy, mamie sont mis à contribution. C'est écolo et c'est vraiment tendance. Hein. C'est un passionné qui a eu cette idée. Jean-Pierre Speidel, l'ancien directeur artistique du groupe Partouche, amoureux des fêtes foraines. Il est tombé dedans quand il était petit, comme Obélix dans la marmite.
Quand on regarde ce qui se passe dans les fêtes foraines, vous avez la maman, le papa, ils bavardent, ils sont avec leur portable, etc. Ils ne s'occupent pas du tout de leurs petits. Et ça, moi, j'ai voulu le contraire. C'est-à-dire que en imposant la propulsion parentale, c'est-à-dire ils deviennent les moteurs, ils deviennent les animateurs de mes attractions. Et tout ce que vous voyez, ce sont des manèges d'autrefois, en bois, en tôle. C'est autre chose que de la résine, que le plastique. C'est un concept 100% écologique. Et on fait du sport.
Et effectivement, faire du sport, c'est bon pour la santé. Cette idée, elle est surtout top pour la planète et top pour la relation avec ces petits bouts de chou.
Ah, il n'y a que des avantages hein,
ah
dans
ouais,
cette
c'est
formule.
Top, ça.
C'est vrai que c'est pas
ouais.
con du tout. Frédéric, vous nous faites faire un petit tour de manège ?
Oui, car c'est un véritable univers, hein, vous l'avez entendu, qui vous attend dans ce parc des arènes. Une ambiance d'antan, la belle époque. Mathieu, vous allez pouvoir pousser des balançoires, Eva faire caracoler des petits chevaux en bois et faire tanguer un bateau. Et vous, Nicolas, je vous imagine prendre les commandes d'un avion. Alors ensemble, on pourra faire tourner la manivelle, des chaises volantes et amuser les plus petits. Des spectacles de marionnettes sont aussi proposés. Et c'est Guignol et votre jumeau, Mathieu, hein, Niafron, qui assure l'animation. Là, enfants, parents et grands-parents sont spectateurs après l'effort, le réconfort. Et grâce au soutien de la municipalité niçoise, Jean-Pierre Speidel a pu transposer son idée de manège à propulsion parentale dans deux autres parcs de la ville. Je vous invite à aller les découvrir avec des thèmes très différents. Il rêve d'un grand manège Alice au Pays des Merveilles dans le centre ville et pourquoi pas d'une sirène.
Ah bah
ça
ouais.
serait beau. Mais rassurez-nous quand même sur ce truc qu'on doit tout faire nous-mêmes. On les churros, on les fait pas nous-mêmes quand même. Ils sont fournis quand même.
Les bonbons sont fournis.
Merci Frédéric Michel, à très bientôt.
Merci.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, entouré toujours de sa complice Eva Roque et d'un invité d'honneur, Bertrand Huskla, l'humoriste à l'origine de Brut, le média vidéo qui parodie Brut, était sur Europe 1 ce jeudi au micro de Mathieu Noël pour expliquer sa démarche. Évidemment, l'humoriste s'attire des critiques lorsqu'il aborde certains thèmes comme le féminisme, le véganisme ou encore l'esprit start-up. Et puis, il est venu aussi nous parler de cette web-série sur Arte. Il revient quand, Bertrand ?
Certaines associations laissent en bouche un goût amer, la brandade de morue à la cannelle par exemple. Mais il faut toujours chercher de nouvelles recettes, c'est pourquoi j'ai créé l'équipée sauvage. 400 grammes de journalisme, une cuillère à soupe de conneries, une pincée de trash pour faire le buzz.
C'est ma bite.
Et surtout, un invité formidable. Aujourd'hui, le comédien et auteur Bertrand Huskla, créateur de Brut, version parodique de Brut, et que vous retrouvez dans la saison 2 de Il revient quand Bertrand, dispose sur le site d'Arte. Alors, il faut pitcher un petit peu. Eva, vous êtes forte pour pitcher.
C'est compliqué. Oui, alors je vais essayer, mais c'est pas évident.
Que je vous refile la patate chaude.
Sur la première saison, vous êtes un trentenaire, vous faites larguer par votre copine Magali, que vous appelez Magalou. Et puis, vous allez décider, avec l'aide de votre voisin, de l'espionner via nos réseaux sociaux et via toutes les petites caméras qu'on peut avoir sur les smartphones, sur nos télés connectés, etc. Et sur la deuxième saison, eh bien, vous avez un peu grandi, un peu vieilli, mais l'espionnage est toujours de mise.
Exactement. Le personnel a vieilli, pas moi. Moi, je suis resté le même. Oui, on a sur cette première saison un personnage que j'aime bien, en fait, qui est un personnage totalement immoral. C'est qu'en fait, par un concours de circonstances un peu débile, il est pas séparé de sa copine, il est en break. Il y a ce truc un peu du break.
Nuance
de trucs, genre, ah ouais, en fait, on est ensemble, mais plus ensemble, on se prend un petit temps pour. Ouais, ok. Et en fait, en débarrassant ses affaires, il se pète la jambe et en fait, il est sauvé par le voisin du dessus qui l'accueille, qui lui met de la glace. Et en fait, en bougeant un joystick chez ce voisin, Gus, ce personnage un petit peu étrange, il se rend compte que ce mec est un ancien militaire mis tout l'immeuble sous vidéosurveillance, comme passion un peu d'observer un peu les gens. Donc du coup, le mec, là, Bertrand, se retrouve avec une arme nucléaire. Il va faire croire à sa copine qu'il fait un tour du monde.
Et en fait, il est juste au-dessus.
Il est juste au-dessus. Ce qui fait que quand il appelle son ex, eh ben, il voit quand elle répond pas. Quand elle a un rancard avec un mec, il le voit. Donc en fait, c'est tout ce qu'on veut pas voir quand on est en période de séparation et lui, il y assiste.
Est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que vous maîtrisez tellement les outils, les nouvelles technologies, tout ça, que finalement...
Je me sens clairement sur un fil en fait. Et de plus en plus, au fur et à mesure que ça avance, moi je commence à avoir une communauté qui me suit et une blague qui part mal, un truc. Ouais.
Vous vous auto-censurez du coup ? Vous vous dites, est-ce que tout le monde va bien comprendre le deuxième degré sur ça ?
J'essaye à chaque fois de bien valider mes blagues. Et en même temps, à l'inverse, tous les sujets dont il faut pas parler, j'essaye quand même d'en parler. Parce que j'ai l'impression qu'à terme, c'est un truc qui va me servir si je peux construire, allez, entre guillemets, ça se voit pas à la radio, mais j'en fais, une espèce de carrière où si un jour je dis un truc de côté, je pourrais toujours me défendre en disant non, mais regardez ce que j'ai fait quand même avant. Il y avait cette affaire, je crois que c'était Guy Bedos qui avait traité Nadine Morano de. Je ne suis pas Guy Bedos, donc je ne vais pas m'y risquer, mais il me semble qu'il avait été relaxé, qu'on avait dit que ça restait dans le cadre de son activité. Et je me suis dit, putain, mais ça c'est quand même génial. Quoi. Le mec dit, non, mais lui il a le droit, mais pas vous. Et je me suis dit, je veux ça, je veux être Guy Bedos sur ce point.
Quand même... Maintenant, vous pouvez tout dire.
Voilà,
dans le cadre de votre activité.
On verra, parce que Guy Bedos n'avait pas Twitter. Enfin, c'est très très compliqué. Il y a des moments où je sors un truc et même les gens que je veux défendre m'attaquent parce que je ne l'ai pas dit comme il fallait. Et ça,
ça devient très compliqué.
Mais pour l'instant, c'est encore marrant, ça va. J'ai pas encore eu de vrais trucs.
Mais avec un problème notamment sur Brut, j'y pense souvent, c'est qu'il y a des gens qui vous découvrent, qui voient pas très bien le mot Brut en fait en haut de la vidéo à droite et qui pensent que c'est Brut.
Ouais.
Et donc qui vous répondent, mais vraiment au premier degré sur vos vidéos.
Ça, c'était en réalité, ça arrivait beaucoup sur les premiers.
Oui.
Maintenant, le programme commence à être installé et j'ai toujours essayé d'en jouer sans qu'on m'attaque, qu'on me dise un peu de faire de la fake news. Parce qu'il y a pas mal de sites qui font un peu ça, je vais pas les citer, mais des sites où vraiment quand les gens se limitent beaucoup au titre quand on partage des trucs. Quand ils voient le titre, ils disent ah ouais, j'ai compris et tout. Mmh. Et alors, il y a des moments où les titres sont quasiment mensongers sur des vrais médias, et parfois ce sont des parodies, mais on ne le voit pas. Il y a des gens qui changent une lettre comme exactement ce que je fais, mais il y a des moments où la parodie est tellement fine. Au moins, le Gorafi, il y a un truc qui est assez clair, je trouve, dans le truc. Et là, eux, je trouve qu'ils sont plutôt du bon côté. Mais il y en a d'autres. Là, il y a un truc qui est sur l'histoire que la fellation transmettrait moins le coronavirus que la bise.
Ouais.
Et ce truc est parti répandu, ce qui était fake
news. Ah, moi, j'ai cru, moi.
Mais tout le monde, ouais, mais le site était complètement bidon, et en fait, comme tout le monde, on a juste regardé le titre. Et voilà, donc j'essaye un peu de faire attention, mais c'est vrai qu'au début on m'attaquait un peu, enfin on m'attaquait non, vous m'attaquez en fait.
Ah arrêtez, non, ça, je me casse. Je trouve que c'est aberrant que les gens ne voient pas le côté parodique.
Et voilà, et il y a des moments où il y a des gens, je peux rien faire pour eux. C'était de se voler de ma réponse.
Brut va vous faire hurler de rire. Bertrand Huskla, notre invité jusqu'à 18h.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Je me tourne vers notre invité Bertrand Huskla. Vous avez créé Brut, l'alternative comique à Brut, une autre manière de consommer l'info. Mais vous êtes plutôt Brut ou plutôt Brut? On est allé vous poser la question.
Brut ou Brut?
Je suis plus Brut que Brut.
C'est quoi ça?
Bah Brut.
C'est drôle.
Brut. Ça fait penser à autre chose. Les femmes.
Brut, mais non, je n'y vais pas. Ni Brut.
Brut, je pense au salaire.
Brut, c'est un parfum.
Brut, la campagne ou autre chose. Voilà.
Ça existe, Brut?
Brut, c'est détourner l'information, non, c'est ça?
C'est comme Combini.
Non, mais bon, les médias actuellement, on parle du coronavirus et...
Brut, des petites vidéos sur Instagram.
Moi, je vois leurs vidéos sur Facebook, en fait.
C'est sur YouTube aussi.
Je cliquerai, surtout si c'est Brut.
Alors c'est marrant, il y a vraiment deux écoles. Alors, déjà, moi je suis censé connaître un petit peu ce qui se fait dans le métier, et je ne connaissais pas, enfin je connaissais Brut en fait, mais je ne connaissais pas Bertrand Huskla, je n'avais pas vraiment...
Vous n'avez pas mis un nom sur un visage.
Exactement, pourtant vous êtes une star sur Internet.
Alors,
j'ai regardé vite fait hier, donc du coup je
vous
ai découvert.
Vous avez des millions de vues, on peut le dire.
Ouais, ça oui, mais en fait il y a un truc un peu étrange qui se passe, c'est que moi c'est la première fois que, ça fait quand même maintenant 5-6 ans que je suis sur Internet, avant j'avais un collectif, ils sont toujours là, vivants, et on est potes, et on était ensemble, sketchs qui vont bientôt sortir, je les embrasse, mais j'avais commencé avec eux, avec une équipe, et en fait je faisais tout ce qu'il fallait pas faire, en fait, on était cinq, on était des acteurs avec une formation classique, qui voulait faire du sketch, avec de la fiction qui prend du temps, c'est tout ce qu'il faut pas faire sur Internet, il faut des infos rapides, cut, des personnages identifiants. Et en fait, avec Brut, c'est la première fois en fait, de ma vie. Ça a commencé en septembre. Alors, pas le programme Brut, mais l'ultra-régularité du programme a commencé en septembre. C'est la première fois que je joue un peu les règles de l'algorithme sur Internet. C'est-à-dire revenir fréquemment deux fois par semaine. Et c'est ça, en fait...
C'est le tempo qui fait le succès sur Internet?
Je pense. Et vraiment, ça me crève un peu le cœur de le dire. Parce que je pense que pour tous les gens qui veulent faire des trucs de qualité long réfléchi, en autoproduction, c'est de plus en plus compétitif et difficile. Et là, c'est la première fois, grâce à l'apport de Canal+, que j'ai une régularité, je suis obligé de fournir. Et ce qui développe aussi un truc formidable, c'est que même des idées qui sont très très mauvaises, comme on est obligé de les faire, elles deviennent géniales. Donc des trucs, j'aurais pas l'idée de faire ce truc-là. Et puis, non, on n'a pas le choix, il faut rendre des trucs. Et ça fait des trucs assez beaux. J'en avais fait un sur la disparition du rasta blanc, comme si c'était un animal disparu avec des images d'archives. Et ça, si j'avais pas été produit, si j'avais fait ça tout seul, je me suis dit, mais jamais je vais sortir un truc comme ça, quoi.
Une question beaucoup plus pragmatique sur les sources de revenus. Ouais. Qui vous paye? Comment ça marche en fait?
Qui me paye, c'est Canal+, ou Arte quand je fais Le Revient quand Bertrand. Ce sont des pôles de fiction, ce sont des pôles qui ont suffisamment d'argent à mettre en fait pour développer une marque éditoriale forte pour défendre une chaîne en gros. Donc moi je suis pas payé par YouTube. YouTube me paye rien en fait, c'est ridicule. Là je peux vous dire, c'est 1 500 $ par mois qu'on fait sur la chaîne.
Ouais. Alors que vous avez des millions de vues.
Alors qu'on a des millions de vues et qu'on a une équipe de, au minimum 4-5 personnes, au minimum 4 acteurs et parfois jusqu'à 30 personnes sur un plateau. Donc si on doit tous se diviser, je pense que moins les charges, tous les trucs à payer, ça devrait 70 centimes par mois par personne.
On embrasse l'URSSAF quand même. Bout va vous faire hurler de rire. Bertrand Huskla est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
2 heures tous les jours, chaque après-midi, pour apprendre et se détendre avec Mathieu Noël, toujours entouré d'Eva Rock et d'un invité d'honneur. Mercredi, c'était Chaïm sur Europe 1 et elle a pu découvrir le sujet d'Anissé Ambida.
Comme dans Danse avec les stars, leur prestation va faire l'objet d'un vote. Sauf qu'heureusement, contrairement à Danse avec les stars, ils ne vont pas danser. Sinon, je vous laisse imaginer le tableau. Eva Rock prenant son élan vers Anissé Ambida pour tenter un porté à la Dirty Dancing.
Connard.
Justement, sous le regard émerveillé de Chaim, voici
émerveillé,
venir.
Je suis pas sûr que ce soit le mot.
Oui, c'est vrai que le mot émerveillé était mal choisi. Voici venir notre premier prétendant à la couronne de chroniqueur du jour, Anissé Ambida, qui écrivait hier dans le groupe WhatsApp où les journalistes proposent les thèmes de leur chronique. Ces mots énigmatiques, je cite. Alors, ça, c'est vrai, hein. Ok, je fais le foot virtuel. Attention, en revanche, je ne pourrai pas être là vendredi. Je suis avec la sœur de Chaim. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Anissé Ambida?
Mais c'est pas une histoire. Il se trouve que ma belle-sœur. C'est le portrait craché de Chaim. Elle vous ressemble comme c'est pas possible, parce qu'elle s'amuse sur son Instagram, elle même des photos de vous.
Okay,
et je dis, oh, c'est bien, oh, t'as minci, oh, t'as changé de maquillage, j'aime beaucoup ta robe, etc. Puis, mais non, c'est pas moi, c'est Chaim.
Mais j'ai eu peur parce que j'ai une vraie sœur, donc j'ai vraiment une
non,
sœur.
Non,
c'est pas ça. Moi, c'est ce que j'avais compris et j'ai eu peur.
Il est quand même juste en train de nous dire, Anissé, qu'il y a usurpation d'identité.
Oui,
d'une personnalité très connue en plus. Et
non, c'est parce qu'on l'ennuie systématiquement en disant, mais t'étais pas à danser avec tes stars.
C'est génial,
on a ras-le-bol.
Mais elle peut entrer où elle veut, dans n'importe quel événement, elle entre comme ça, c'est génial.
Non, mais ça l'ennuie parce que évidemment chacun veut garder sa personnalité, on n'a pas forcément envie d'usurper sa
mais en
d'autre.
Revanche moi ça m'arrange hein. Il y a des choses dans lesquelles j'ai pas envie d'aller donc si elle veut y aller à ma place.
Alors Issé, vous nous parlez aujourd'hui de foot et de jeux vidéo, expliquez-nous.
Oui, alors c'est une tendance que vous avez peut-être remarqué qui existe depuis quelques années en matière de jeux vidéo, c'est qu'on veut sortir les joueurs, on veut sortir les gamers de leur canapé et faire en sorte qu'ils se dépensent vraiment dans la vraie vie. Vous avez peut-être déjà vu ça avec la Wii, la console Wii. Vous savez, cette console où il y avait des manettes, là, on devait gesticuler dans tous les sens et transpirer dans son salon. Ça a commencé comme ça. Et bien, désormais, ça arrive dans le foot, dans le jeu FIFA. Et donc, ça fonctionne comment? C'est un tout petit capteur que l'on va mettre dans sa semelle de sa chaussure de foot. Et quand on va être sur le terrain, elle va mesurer les dribbles, les courses, les tirs,
si vous êtes
la
nul.
Vitesse sur le terrain, etc. Elle va tout mesurer, elle va tout enregistrer. Elle va tout envoyer dans l'application FIFA et ça va permettre comme ça de donner des bonus à ses joueurs, de donner des bonus à son équipe et puis de gagner des points supplémentaires. Il y a par exemple un défi qui est fait en ce moment, sur le premier défi qui a été proposé, c'est de faire 40 tirs dans la surface de réparation. Donc dès qu'on a fait 40 tirs dans sa surface de réparation,
vous m'avez perdu.
La surface de réparation,
surface de quoi de séparation.
C'est le petit rectangle blanc.
La surface de séparation, c'est quand vous avez trop joué à FIFA, vous rentrez avec votre conjointe dans la surface de séparation. C'est-à-dire qu'elle prend un avocat et elle vous dit coco, t'arrêtes de jouer à la console.
Je dis que j'ai pris des risques avec ce sujet, parler foot et tout, truc bien bourrin.
C'était audacieux.
La surface de réparation, c'est le petit rectangle blanc qui a juste devant les buts, qui montre qu'on est très près du but. Et bien si on fait 40 tirs dans cette fameuse surface de réparation, eh bien on va pouvoir, ces joueurs vont courir plus vite, ils vont être beaucoup plus précis. Donc ça permet d'améliorer
la
capacité de son équipe.
Ça vous pousse à faire du sport.
Exactement.
Ça vous pousse à ne pas faire que des jeux vidéo. C'est un peu manger, bouger.
Mais alors moi j'ai une idée justement. Vous savez que ce soir c'est le fameux match, un match très important pour le football français puisque c'est les 8e de finale. Paris Saint-Germain contre Dortmund. Le problème c'est que Paris a perdu à l'aller. Votre joueur préféré, je crois que c'est Verratti.
Oui.
Suspendu.
Ah ouais?
Oui, il est suspendu. Mbappé.
Il est malade.
Le match a lieu à huis clos, donc Paris est plutôt mal barré.
Bah, qu'est-ce qu'on peut faire?
Une petite idée. Bah, si on utilisait ce petit système, ce petit capteur, et qu'on l'utilisait en compétition cette fois, eh bien, on pourrait l'utiliser pour donner des points supplémentaires à son équipe. Vous savez qu'au, je ne sais pas si vous le savez, en tout cas en Formule E, la Formule 1 électrique, il existe un système où on peut booster, améliorer la performance, donner un petit bonus de performance supplémentaire à son pilote préféré. Comme ça, pendant 10 minutes, eh ben, il va plus vite que les autres.
C'est comme avoir le champignon à Mario, quoi.
Exactement.
Oh, belle comparaison.
Eh bien, on pourrait adapter ce système, c'est-à-dire que les supporters, eh bien, plus ils jouent, plus ils remplissent de défis, plus ils ont de points, eh bien, peut-être qu'on pourra mettre un handicap à l'adversaire. Par exemple, je ne sais pas, un carton jaune ou un pénalty automatiquement. Oh, mais si, c'est comme ça.
Ben, on dit souvent... Déjà que Michel Platini ne voulait pas la VAR, alors là, si vous lui dites ça en plus.
Mais on dit souvent que le public, c'est le 12e homme dans un match de foot. Eh bien là, ça serait la véritable... On pourrait transformer vraiment ce public en 12e homme. Et surtout, comme on est parti avec le coronavirus, on va avoir de plus en plus de matchs à huis clos. Et donc, si on peut faire participer les supporters directement chez eux avec leur console...
Mais ils vont devenir encore plus fous, hein. Ces supporters.
Ils vont devenir complètement tarés.
Complètement tarés.
Effectivement, ils sortiront de leur canapé, ils vont se bouger.
Ne soutenez pas la candidature d'Anissé Mbida à la FIFA. Ça ne marchera jamais. Merci Anissé pour cette belle chronique. Et puis, rapport à ce week-end avec la sœur de Chaïm, on rassure évidemment votre épouse, comme le dit Eva, avec beaucoup de conviction.
Oui, il a l'air très fidèle.
Ouais, très fidèle. Voilà, super.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Allez, pour quelques minutes encore, nous sommes avec Mathieu Noël, Eva Rock, un invité d'honneur et un journaliste. Alors là, ce sera un invité, notre compilation touche à sa fin et cette dernière séquence se fera en compagnie de l'acteur Nicolas Duvauchel. Il était avec nous ce lundi pour nous parler du nouveau film de Mathias Malzieu, Une sirène à Paris, sorti cette semaine et dans lequel il tient le rôle principal, celui d'un crooner amoureux d'une sirène.
Vous écoutez l'équipée sauvage, l'émission où l'on est impitoyable avec nous-mêmes et hyper sympa avec l'invité. La question étant aujourd'hui, puisqu'on reçoit Nicolas Duvauchel qui joue dans le dernier film de Mathias Malzieu, peut-on aller plus loin dans le cirage de pompe avec Nicolas qu'avec Mathias, sachant que notre journaliste Fred Goetti était déjà allé sacrément loin ce jour-là avec un cirage haut de gamme finition lustrante. C'était si gênant qu'Eva avait été obligée d'intervenir.
Il y a des tubes en puissance, il n'y a aucun morceau qui fait plus de 3 minutes et des poussières, c'est des morceaux assez courts. Petit côté Sgt Pepper dans l'ensemble, je trouve le côté à la fois conceptuel et on peut sortir chaque chanson. Mais pas nostalgique, ça qui est fort. Pas nostalgique, pas revival.
On avance un petit peu ?
Allez, on avance. Ne soyez pas dupes, Nicolas Duvauchel. Nos journalistes ont beau aimer les films et les albums des invités, ils cherchent avant tout à s'assurer leur vote par tous les moyens, on vient de l'entendre. Alors mercredi, on vous retrouve dans Une sirène à Paris. C'est un film très original. Pendant près de 2 heures, on est embarqué avec vous dans cette histoire d'amour si atypique entre vous et cette sirène échouée en bas de votre camaret. On passe des scènes romantiques pleines d'émotions à des scènes très drôles. Vous n'êtes pas souvent dans des films drôles, Nicolas Duvauchel. Or, vous êtes très bon là-dedans, dans la comédie.
Bah merci.
On ne vous les propose pas ou c'est vous qui préférez?
Oui, c'est vrai qu'on vient pas vers moi. Oui, comme ça, je pense qu'on pense pas à moi tout de suite quand on fait un film.
Les tuches, on vous a pas appelé, quoi.
Non, je sais pas si c'est un film drôle, mais mais bon, après, c'est chacun son humour. Non, en plus. Mais c'est vrai que oui, on pense pas à moi. Et puis, mais j'avais déjà fait Jour J, puis j'avais fait Comme des frères aussi. Mais c'est vrai que c'est très agréable, quoi, de se glisser dans la salle et d'entendre les gens rigoler et tout. Ça fait du bien, quoi.
Mais
ça fait
du bien. J'avais une question parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux dans Une sirène à Paris. Alors, c'est des petits effets spéciaux, hein. Il y a un côté féerique assez magique. Quand vous tournez le film, et une fois que vous le voyez, vous avez vraiment l'impression que c'est une œuvre totalement différente de celle que vous avez tournée ou pas du tout ?
Ben non, pas du tout, parce que des effets spéciaux qu'on a fait post-tournage, donc après le tournage, sur la pellicule et tout, il n'y en a pas beaucoup en fait. Tous les décors, c'est que du vrai qu'on ne pouvait palper, qu'on pouvait toucher. Même là, c'est la queue de la sirène, c'était une vraie queue en silicone. Enfin, tout. Et c'est. Non, il y a vraiment très peu d'effets spéciaux. Et c'est ça qui était bien justement à tourner, c'est qu'on pouvait s'amuser avec tout ça sur le décor, être complètement dans l'ambiance du film dès qu'on était sur le décor.
Ouais. Ça veut dire que vous l'avez vraiment porté tout le film, la sirène, avec sa grande queue là.
Oui,
elle pèse son poids, on peut la citer,
Marilyn Lima. 7 kilos de nageoire pédale, mais sans eau. Hein, quand tu parles d'eau, c'est beaucoup plus lourd. Puis tout le poids est au bout, sur les pieds, donc c'était un peu une galère.
Et quand vous rentrez dans l'ascenseur, c'est vraiment elle qui est sur votre dos, là.
Oui, c'était vraiment elle, la pauvre d'ailleurs. Elle aussi, elle a morflé, la pauvre. Ça n'a pas été facile pour elle, elle avait des abdos en béton après, parce que j'apporte un peu comme un sac de pommes de terre.
C'est romantique, mais il y a dû avoir 2-3 fous rires, parce que tenir une sirène, oui.
Ouais. Non, on s'est bien marré, mais c'est vrai que oui, ça n'a pas été évident avec cette nageoire caudale, parce qu'il ne faut pas dire que je me fais engueuler.
Nageoire caudale, c'est plus élégant, caudale. Effectivement. Faut-il légaliser le mariage homme-sirène ? C'est le pavé dans la mare que lance Mathias Malzieu dans son nouveau film Une sirène à Paris, mercredi sur vos écrans. Nicolas Duvauchel est notre invité jusqu'à 18h.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1.
Vous écoutez l'équipée sauvage et aujourd'hui, au lendemain de la journée internationale des droits des femmes, j'aurai une pensée pour cette journaliste souvent malmenée à l'antenne par un insondable mufle.
Elle s'appelle Eva Rock. Elle souffre du syndrome de Stockholm qui fait qu'au lieu de déposer contre moi une main courante au commissariat, elle m'appelle après le boulot pour aller prendre des verres et organiser des dîners. J'aimerais aujourd'hui lui rendre un hommage sincère, car même si évidemment tout ça c'est du chiquet, même s'il n'y a pas une once de vérité dans mes vannes sur sa soi-disant érotomanie, il faut quand même qu'elle ait les reins solides. Enfin, les reins solides, je veux dire, enfin, non, l'expression... Bref, je l'aime et c'est pourquoi je lui offre aujourd'hui cette sublime photo dédicacée de moi pour la remercier de me subir au quotidien et surtout de prendre sur elle, alors que souvent je sais qu'elle rêve de me dire
« Ça fait 35 ans que tu m'emmerdes !
Oui, non.
Tu me fais chier !
Oui, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de vider son sac, mais criez pas comme ça, ça vous fait la voix de Daniel Auteuil. Bref, notre séquence émotion étant terminée, nous pouvons passer à la séquence croustillante du jour.
Je lis même pas votre dédicace.
Elle est pourtant belle.
Ouais.
Nicolas Dubochel, normalement à ce stade de l'émission, nous organisons un quiz où l'invité affronte Eva, mais je ne vous cache pas que cette dernière, nous parlons de vous depuis 15 jours, je vais plutôt faire un test de compatibilité amoureuse. Le principe, nous allons faire remplir un questionnaire avant l'émission à Eva, je vais vous poser les mêmes questions et on va voir si scientifiquement, entre vous, ça peut matcher.
Pour être... Évidemment, je n'étais pas au courant, Nicolas Dubochel, qu'on soit bien clair.
Et pour être totalement honnête, nous avons également posé les mêmes questions à Claire Dutronc, notre programmatrice qui est en régie, qui, elle, nous a beaucoup parlé de vous aussi, mais elle, c'est depuis 2 mois. Donc, on ne sait jamais, l'amour est peut-être au bout du couloir. C'est parti. Nicolas, vous avez un dimanche après-midi de libre à deux. Ça sera cinéma, pour voir le dernier Danny Boone, une expo photo sur la politique étrangère de Fidel Castro, ou un jogging à deux, et après, une douche à deux.
Ah, le jogging.
Le jogging, c'est un double match. C'est ce qu'on appelle sur Tinder, un double match. Le jogging à deux pour Eva et pour Claire Dutronc.
Claire,
bravo.
A répondu ça.
Oui, mais coquinette, vous avez répondu ça. C'était sous le sceau du secret.
Elle court pas.
Seule dans la rue. Oui, mais c'est surtout la partie douche à deux, visiblement, Claire. Seule dans la rue, vous tombez sur votre ex. Vous en profitez pour refaire votre lacet. Vous reprenez son 06 parce que vous aviez effacé par mégarde son numéro. Ou vous lui souhaitez sincèrement le meilleur dans sa nouvelle relation.
Oh bah le meilleur dans sa nouvelle relation.
C'est beau. Alors voyons voir les réponses des filles. Eva Rock, oh, quelle est... Vous aussi, vous souhaitez une jolie nouvelle relation. Claire Dutronc, elle refait son lacet. Très clairement. Voilà, ça c'est dit. Vous organisez un resto surprise à deux. Vous détestez le kebab, mais comme votre amoureuse adore, vous vous sacrifiez. Jamais de la vie parce que vous cuisinez trop bien. Vous choisissez un resto super cher et en plus vous payez, c'est la grande classe.
Ah oh merde. Allez, va pour un grec parce que je suis sympa.
Ça fait
plaisir.
Et alors là, aucune compatibilité.
Ah bah non, là,
alors les deux, c'est le resto cher, le resto cher, le resto cher.
Vous exagérez, vous dites pas que c'est nous qui payons.
Oui, c'est vous qui payez.
Bah
non,
voilà,
mais c'est,
vous,
mais c'est la classe. Voilà,
bah c'est la
certaine,
classe.
Pas de kebab. Ça fait pile 4 ans que vous êtes ensemble. Vous ne dites rien, après tout, ça vous gonfle ce genre d'anniversaire à la con. Un petit bouquet, ça fait toujours plaisir et tout le monde en profite. Ou vous investissez dans une carte anniversaire avec un chat qui tient un gâteau qui siffle quand on l'ouvre.
4 ans, je n'ai jamais fait, donc c'est un peu de la science-fiction pour moi. Mais allons-y pour la carte avec le chat, là.
La carte avec le chat, alors là, zéro compatibilité. Et
moi, je m'en fous, mais royalement,
quoi. Attends, moi, je loupe l'anniversaire des 4 ans, je peux te dire que...
Vous n'y êtes pas encore, vous avez le temps d'y penser.
Oui, mais les 2 ans, je peux te dire que tu ne le rates pas. Et Claire Dutronc, tout à coup romantique, ce qui ne le ressemble pas, un petit bouquet. Le pire pour vous, ça serait quoi? Qu'elle vous trompe avec une femme? Qu'elle vous trompe avec une personne de votre famille? Ou qu'elle ne vous trompe pas? Quel ennui.
J'ai honte de ma réponse.
Avec la personne de la famille, quand même, c'est un peu chelou, quoi.
Ça, c'est chelou, ouais.
Ça fait chelou.
Ouais. Ouais, après, le dîner de Noël est un peu gâché, quoi.
Oui.
Ouais.
Alors, Eva, qui est célibataire, il faut quand même le rappeler, hein, parce que donc elle est un peu dans la science-fiction aussi. C'est-à-dire que vous, Eva, ce qui vous gênerait, c'est qu'il ne vous trompe jamais.
Oh,
en fait.
Mais grave, ouais.
Mais vous savez, là, il y a plein de gens qui vont postuler, je pense. Ça peut être très intéressant comme plan. C'est-à-dire que vous ne reprocheriez de ne pas vous tromper.
Mais ils vont pas le savoir.
Une
c'est
première
tout.
Dans l'histoire des relations homme-femme. Tandis que Claire Dutronc, elle est qu'il vous trompe avec une personne de la famille. Ah, alors attention! On va faire le résultat. Les deux sont compatibles à 40%.
Oh non, mais
ah oui, c'est les deux. Et Claire Dutronc me dit, elle ne vivra jamais avec Eva. Pourtant, le triolisme, le triolisme a de l'avenir sur Europe 1. Alors, il y a quelqu'un avec qui vous vivez dans le film quasiment, parce que c'est votre voisine, c'est Rossi de Palma, dans le film Une sirène à Paris, personnage exceptionnel. Une voisine aussi envahissante. À un moment, on se dit, mais comment vous faites pour rester sympa avec elle, quoi ?
Parce que le gars est sympa. Ouais. c'est vrai qu'elle est incroyable. Voilà, moi, je l'avais déjà croisée plusieurs fois. Et là, oui, de pouvoir la voir sur le tournage et de pouvoir tourner avec elle. Voilà, elle est à l'écran comme dans la vie. Donc, ça a été un bonheur tous les jours de la voir. C'est une tornade. Et puis, elle est adorable. Et puis, elle est drôle. Et Puis elle est vraiment là, ce truc complètement loufoque qui est incroyable, quoi. C'est Rossi de Palma, quoi.
Et c'est bah, un personnage en soi.
Et ouais. Alors, vous partagez aussi une scène avec un chanteur qu'on reçoit demain, en l'occurrence. Oui. C'est vraiment le hasard du calendrier. En l'occurrence, Cali.
Bruno, oui.
Ouais. Est-ce que vous voulez lui faire un petit message, là, pour demain?
Bah oui, oui. Après, moi, je le connais un peu. On a des amis en commun et tout. Donc, et puis, on était au théâtre en même temps, pas dans la même pièce, mais en même temps. Donc, ouais, je voulais faire des gros bisous. J'aime beaucoup ce monsieur.
C'est la musique qui vous... Je cherche mon mot.
Qui vous lie.
C'est oui, non, c'était pas le mot que tu cherchais, mais...
Lié, ouais. Premier groupe, ouais, pas facile.
Ouais, puis même juste la rencontre humaine, quoi. Après, moi, ouais, je suis un fanatique de musique, quoi, tout le temps, toute la journée, tous les jours, très éclectique, et c'est vrai que c'est une grande part dans ma vie, et oui, j'aime beaucoup les chanteurs.
Mais vous avez chanté vous-même à une époque?
Oui, j'avais un groupe de hardcore metal, oui.
Et c'est vous qui chantez dans Une sirène à Paris?
Oui, on a repris les chansons de Mathias, ouais, de Mathias Malzieu, c'est vrai, c'était super à faire d'ailleurs.
Il va faire fondre votre cœur dans Une sirène à Paris, même si pour certaines d'entre vous, il est déjà partiellement fondu. Nicolas Duvauchel passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Et la séance de rattrapage continue demain dès 16h sur Europe 1. On va retrouver Mathieu Noël, Eva Rock, les journalistes de la rédaction, les invités d'honneur, à savoir MC Solar, l'acteur qu'on vient d'entendre, Nicolas Duvauchel, l'auteur, compositeur, interprète Cali, la chanteuse qui fait ses débuts d'actrice Chaim, sans oublier l'humoriste, comédien Bertrand Huskla.